près de toi.
Près de toi.
Près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Yeah. Tu avales ton pain au chocolat, tu la chantes maintenant? Vas-y, chérie.
C'est papa, je dis.
Bah, papa, qui chante Petrouchka ce matin?
C'est toi, Lisa, qui chante Petrouchka.
Mais non, papa.
Mais, bah, non, dis... mais il parle déjà beaucoup, ton papa.
Il parle beaucoup, moi, c'est
il Petrouchka. Il a parlé en 2016.
Pleure pas. C'est toi qui chante.
Mais c'est toi.
Mais non, c'est toi. Bon, tu as dit que tu chantes.
Mais non, chante, c'est Atmen. Toi.
Bon, alors, il y a des enfants qui ont des parents. Bonjour, c'est parce qu'Atmen... Liliane pouvait pas être avec nous pour des raisons salariales.
Oui, c'est parce, non, c'est parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de nounou.
C'est pas dans le cadre un jeune un job. Parce qu'elle a quel âge,
Atmen, ta fille? Elle a 4 ans.
Ah non, 4 ans, moi je ne peux pas la faire travailler. Mais ma chérie, tu chantes pas Petrouchka, je te dis, t'as t'assois sur le petit canapé?
Oui, tu dis
vas-y,
oui.
Vas-y, c'est un petit peu comme ça.
C'est un petit peu comme ça.
Voilà, en 2017, je vous expliquerai. C'est très différent. Fini les rediffs, les podcasts, et tiens, on l'a déjà entendu, on est là. On est debout comme vous. Et puis, il y en a un qui ne vieillit pas d'année en année. Il a une sorte le secret de la jouvence éternelle. Il se baigne chaque jour. C'est quoi? C'est du lait d'anesse?
C'est quoi? C'est un mélange dont je ne peux pas révéler le secret. Parce que sinon, tout le monde serait aussi jeune que moi.
Sur Nova point, point, point.
Voilà.
Nova point, point, avec d'autres points. Voilà, les grandes nouvelles par Thierry Paré. C'est comme toujours. Mieux.
Et François Hollande est arrivé ce matin en Irak.
Parce que c'est Manu qui réalise l'émission aujourd'hui, donc je n'ai pas entendu s'il a envoyé votre petit truc.
Si, un petit tapis sonore.
Ah oui, un tapis sonore de grand luxe. Hein,
voilà. François Hollande donc est arrivé ce matin en Irak, une visite d'une journée seulement aux forces françaises. Enfin seulement, voilà, c'est une visite d'une journée aux forces françaises. Il était déjà allé, il s'est déjà rendu en Irak auprès des forces françaises, c'était en 2014. La trêve, mais quelle trêve? En dépit de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur vendredi à minuit, l'aviation syrienne aurait bombardé hier plusieurs secteurs du pays. En tout cas, c'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme, et notamment sur la vallée de Wadi Barada. C'est une zone des environs de Damas qui est tenue par des rebelles. 39 morts, 65 blessés, c'est donc le bilan, hélas, toujours provisoire de l'attaque contre le club Reina, célèbre discothèque d'Istanbul, la nuit du jour de l'an, à quelques centaines de mètres de l'endroit où se tenaient les célébrations officielles du Nouvel An. 7 minutes, entre 1h15 et 1h22, c'est le temps qu'il aura fallu à un seul tireur pour tuer 39 personnes. Arrivé sur place en taxi, l'arme placée dans le coffre, l'assaillant a d'abord tiré sur un policier en faction devant l'établissement, et puis sur un passant à l'entrée avant de se déchaîner au hasard dans la foule qui réveillonnait à l'intérieur. Les autorités turques ont très vite dénoncé un acte terroriste en privilégiant la piste de l'État islamique. Le tueur a réussi à prendre la fuite au milieu de la confusion de l'attaque, donc il est toujours recherché à l'heure qu'il est, et il se pourrait, c'est pas sûr, qu'il y ait eu d'éventuels complices, et il n'y a pas de revendication aussi, c'est à noter. Plus d'un millier de migrants qui souhaitaient gagner l'Europe ont pris d'assaut hier la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. Un policier a perdu un œil dans les heures qui ont suivi. Aucun migrant ou réfugié ne serait parvenu à franchir cette clôture, qui est quand même haute de 6 mètres de haut, à l'exception de deux qui ont été grièvement blessés et hospitalisés à Ceuta. Désigné début octobre pour succéder à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations Unies, l'ancien premier ministre portugais, Antonio Guterres, est donc entré en fonction hier. Peut-être un procès exemplaire à Paris, enfin en tout cas c'est le premier dans ce que l'on appelle l'affaire des biens mal acquis. Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen, est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour détournement de fonds publics et corruption. Il se serait bâti en France un patrimoine considérable avec hôtels privés, voitures de luxe, en détournant la rente pétrolière de son pays par l'intermédiaire notamment d'une filiale de la Société Générale. Sauf surprise, le fils Obiang ne devrait pas venir à son procès. Et puis, outre la Guinée équatoriale, deux autres procès pour biens mal acquis ont été lancés. D'une part contre les enfants de Denis Sassou Nguesso au Congo et d'autre part contre le clan Bongo au Gabon. C'est un classique. Au lendemain de la nuit de la Saint-Sylvestre, les autorités minimisent toujours les incidents, mais elles sont toujours rattrapées par les chiffres un ou deux jours plus tard. Ainsi, le réveillon, sans problème majeur, du ministre de l'Intérieur Bruno Leroux, s'est soldé par les arrestations de plus de 450 personnes à travers la France, dont 300 qui ont été placées en garde à vue, notamment à Strasbourg, les incidents, et 650 voitures ont été incendiées. Plusieurs départements ont déclenché le plan grand froid, d'autres pourraient suivre ces prochaines heures. Ce plan prévoit des lieux d'hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile fixe, selon les conditions météo. 18 départements ont été placés en vigilance orange hier soir, les saleuses sont entrées en action cette nuit. Il s'agit de tous les départements de l'Île-de-France et de ceux du Nord, alors même si pour le moment ça se passe plutôt bien, tous pourraient être concernés par des pluies pluie verglaçante, voire des chutes de neige dans les heures qui viennent. Et puis par ailleurs, bien que nous soyons lundi, les vacances scolaires ne se terminent que ce soir. Il faut donc s'attendre à du monde sur les routes. La journée est classée orange dans le sens des retours sur tout le pays. La Suède a été le premier État à légiférer contre les châtiments corporels sur les enfants, les fessées notamment. Enfin, on pense à ça en tout cas, et c'est de cela dont il s'agit. La France vient de faire la même chose. C'était le 22 décembre dernier. Elle est le 52e pays à interdire la fessée. C'est entré en action hier. L'Observatoire de la violence éducative ordinaire, qui recense les pays abolitionnistes, note que la législation n'est qu'un premier pas et qu'elle n'est pas toujours assortie de mesures permettant son application. On en avait parlé avant les vacances, c'est chose faite depuis hier. Quelques 2000 demandeurs d'emploi finlandais âgés de 25 à 58 ans ont été tirés au sort pour recevoir 560 euros par mois pendant 2 ans. Ils vont tout simplement tester le revenu universel. Et puis, si vous aviez été célèbre comme Edouard, vous auriez peut-être passé le jour de l'an du côté de Los Angeles. Voilà. Et alors, vous auriez assisté...
Exactement. Je dis exactement, parce que vous me citez, moi j'ai comme si on appuyait sur un bouton, c'est pas ce que vous allez dire comme connerie, mais exactement.
Et alors vous auriez peut-être pu assister à une performance, un petit malin, ou plusieurs, on ne sait pas, ont détourné les fameuses lettres qui forment le nom Hollywood sur le mont Lee. Il a ou ils ont réussi à transformer les deux O en E, de façon à lire Hollywood, et la weed ça désigne évidemment la marijuana ou l'herbe. Il s'agissait apparemment de célébrer l'autorisation de l'usage récréatif du cannabis en Californie. La mesure a été votée au mois de novembre, elle est entrée en application en fait hier.
Je n'ai pas suivi le rapport entre le début de la phrase et la suite. Nova. J'ai l'impression, Thierry, pareil qu'il y a celui du 31 décembre au soir, il y a celui de ce matin, que c'est pas du tout le même. Hein. J'ai l'impression c'est très différent. Hein. Vous faisiez plus le malin, vous étiez plus fier hein, le 31 décembre au soir. Ah, vous étiez différent, mon Thierry Paret, je vous vois avec ce petit chapeau sur la tête, cette langue de belle-mère, ces légumes teignes, ce décompte à la con, 19, 8, 7, c'est 2017, c'est l'année de la brouette. Hein, vous faisiez plus le malin dans le noir exigé avant minuit, les mains qui frôlent, cette femme qui vous a dit non en plein jour. Ah, vous étiez plus fier, mon Thierry Paret. Nous aussi, ce matin, nous ne sommes pas la nuit des lions, le matin des hommes comme les autres, avec nos problèmes d'hommes, c'est-à-dire des problèmes de mélancolie, de barbe qui repousse, de douche à reprendre, ce train-train qui reprend. Mais cette année, ce train, nous le prendrons en première, tous ensemble, avec le tarif de seconde. Très bonne journée. C'est parti. Allez, on enlève les... On refera... À partir de demain, on est en vacances, on mettra des...
Plus près de toi.
Voilà. C'est... Alors, est-on rattrapé par le réel? Ces vacances de fin d'année sont-elles un trou dans l'espace-temps? Est-ce que c'est le débat qu'on va avoir ce matin, Christophe Méné?
Je ne sais pas.
Bonjour Marie Missé, bonjour.
Bonjour Edouard.
Vous avez pris des vacances, vous avez dormi?
Peu.
Vous avez fréquenté, vous vous êtes éloigné de Paris, vous êtes parti en stop quelque part?
Je suis peu parti en stop, j'ai peu fréquenté, enfin bref, ça va bien.
Donc tout à l'heure, vous nous préparez des nouvelles...
Et j'ai remarqué que les gens étaient très lyriques ce matin dans la presse.
C'est vrai?
Oui, très envie de faire des grandes phrases, des grands mots. Par exemple, là, j'ai la mort de Nietzsche sous mes yeux, après avoir embrassé longuement une jument. Et c'est vraiment beau, c'est une chronique dans la croix.
Vous pensez que Nietzsche est plus mort depuis 2017? C'est l'anniversaire de sa mort?
Qu'il a presque commencé à être mort avant de mourir. En tout cas, c'est ce qu'on lit.
Tout à l'heure. Atmen, à part être venu avec votre charmante fille ce matin, vous êtes dans quelle humeur?
Très, très bonne humeur pour 2017, une belle année qui se présente.
Vous avez une bonne voix très dentale ce matin, vous n'avez pas encore l'articulation.
Je suis un peu luquinien comme ça, je tape avec les fouets.
Christophe, vous avez reçu des vœux, vous, mon vieux.
Malheureusement.
Alors cette année 2017, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on reçoit? Il n'y a plus tellement de vœux groupés, j'ai l'impression.
Ah, il y en a quand même. Il y a celui-là notamment, bonne année, bonne santé, amour, gloire et beauté.
Vous l'avez reçu?
Oui, je l'ai viré de mes contacts.
Qu'est-ce que vous avez? D'accord.
Je n'ai plus. Alors, il y en a.
C'est quoi les rimes de 2017?
Eh ben, j'ai bien peur. En 2017, fini la branlette. Voilà.
Oui, d'accord. C'est frais, oui.
Voilà. Sinon, j'ai reçu un truc du fric, du flouze, du pognon. Il y a que ça de bon. Bonne année, mon con.
Donc, pareil, mais ça c'est très adressé. Pour lui. Ça, c'est très personnalisé. Voilà, Tout le monde ne le reçoit pas, celui-là. Je vois bien à quelle partie de vous il s'adresse. Et ça, c'est vraiment très personnel.
Alors, le pire, c'est les gens qui pensent vous souhaiter une bonne année, mais si on traduit un peu, bonne année que 2017 t'apporte de nouvelles rencontres. Parce que soi-disant que les anciennes ne savaient pas, de la joie de vivre. Merci pour l'invitation. Et surtout de nouvelles opportunités. Alors je ne sais pas si vous êtes visé, vous.
Ou bien il y a un mec qui. Moi j'ai 50 ans, enfin ton année 2017. Oui, d'accord.
Et puis.
Vous avez parti. Moi j'ai reçu un truc, c'est une fausse feuille de médecin de cette année, du bonheur 3 fois par jour, de la réussite matin, midi et soir.
Bah oui, il faut être original. Donc voilà. Et par contre, alors à part la branlette, il n'y a pas beaucoup de rimes. Les gens.
Parce que l'année de la brouette, ça ne donne rien, évidemment.
Non,
il y a des surprises aussi. Il y a dire. 2017, fini la crise, mais bienvenue la crise de rire. Il y a des trucs comme
non,
ça.
Tu l'as pas reçu.
Non, tu viens de l'inventer.
Je pense que tu as reçu des trucs. L'année de la sucette, l'année des poètes.
J'ai une petite
c'est le retour de l'acteur Julien Carrette, tout ça. Des trucs qui concernent les jeunes d'aujourd'hui.
Vive la crise de rire, si je l'entends.
Oui, mais ça, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. D'autres, quelqu'un a reçu quelque chose? Manu, qu'est-ce que vous faites là à la réalisation de l'émission?
Bah écoute, je fais ce qu'il faut faire.
Mais pourquoi c'est toi?
Ah bah ça faut demander à Armel.
Alors Armel M est en... chez lui. Et chez lui pour une semaine, il prend ce qu'on appelle des vacances décalées.
Il est en congé.
C'est un concept décalé. Eugénie, des vœux intéressants?
J'ai eu 2017, l'année de l'omelette.
Oh mon petit chat, oh, très mignon. C'est très mignon, on voit bien ces petits œufs qui sont cassés, qui sont remués avec la petite fourchette, l'année de la fourchette aussi, bien sûr. Et
puis après, tout ce qui est en net marche.
Dis donc,
année de la
raquette. Dis donc, c'est mon émission. Je suis ton baba. Alors,
on avait dit non.
Non, on avait dit qu'on arrêtait ça. Qu'est-ce que, Charlène, vous avez compilé des vœux, je crois.
Exactement, j'ai réuni deux, trois copains.
Peut-être déjà bonjour.
Bonjour, déjà.
Bien sûr, vous avez reçu des petits vœux par SMS?
Oui, vaguement.
Personne n'a reçu des photos dédicacées de familles nombreuses qu'on connaît qui nous envoient leurs. Vous allez recevoir ça, vous allez bien
moi,
en chier
dessins,
dans,
moi,
les,
dessins,
dans les jeux. Vous avez reçu des gifs,
des gifs.
Un feu d'artifice, Bernard? Dans le monde du hip-hop, on envoie du feu d'artifice.
Ah, tes amis,
c'est
du
très vieux hip-hop, c'est du hip-hop de 80s, Bernard. Alors, Charlène, qu'est-ce qu'on va écouter?
On va écouter des grandes personnes qui nous souhaitent une bonne année.
On doit deviner qui c'est ça le jeu?
Allez, c'est le jeu.
Alors, celui qui trouve ne gagne rien.
Exactement.
Allez.
Et il vous souhaite une bonne Nadal.
Et je voudrais ajouter un des vœux de Georges Brassens qui était au fond d'une merveilleuse simplicité. Il disait que chacun essaie de faire de son mieux et souhaite que les autres en fassent autant.
Bonne année.
Je ne sais jamais quoi souhaiter. Personne ne sait jamais quoi souhaiter.
En été, quand je vais en vacances, j'ai l'habitude d'aller sur les bords de la Loire. Je pêche toute la journée pendant un mois. Et je leur souhaite tout le plaisir que j'ai pendant un mois. Je leur souhaite, et je me le souhaite aussi, pendant 365 jours.
Bonne année, Brigitte.
Bonne année, Gilbert.
Ce que je leur souhaite, moi, aux Français, qu'on leur fiche la paix aux Français. Hein.
Voilà le nouvel an, tout neuf. Solide comme le pont neuf, il va réaliser tout ce dont vous pouvez rêver.
Et vous le sentez toute la merde.
Ah non, ça c'est les oiseaux. Oui, ben bonne année.
On écoutait Marie Queenie Lyons.
Absolument, absolument Manu, je vous trouve vraiment sur le coup. Je trouve c'est il est 7h20, dites, c'est aussi le service du matin. Thomas Baumgartner, bonjour.
Bonjour Edouard.
Tout s'est bien passé pour vous?
Oui, oui, très bien.
Est-ce que vous pouvez vous regarder dans une glace le matin et vous dire j'ai pris des coups, j'en ai rendu, j'ai peut-être pas toujours été à la hauteur, mais il y a un homme.
Mais j'ai joué mon rôle d'homme, exactement, ce que je me dis tous les matins.
Ouais, tous les matins. Mais est-ce que vous mettez un masque le matin, vous jouez un rôle, vous endossez vos habits d'homme?
Oui, il y a une session de catch le matin, sous masque, effectivement.
Du catch à quatre, seul contre les trois autres, et les trois autres, c'est vous.
Exactement.
C'est ça l'ennemi intérieur. Bonjour à Nader Boussandel, qui est passé nous voir, Nader.
Bonjour.
Ça va? Ne lui branchons pas le micro, c'est la tradition d'accueil
des jeunes. Ça arrive souvent, effectivement.
C'est parce que vous êtes né à Vigneux, donc c'est petit à petit qu'il faut gagner votre micro par le combat de rue.
Le temps passe, voilà. Merci.
Asseyez-vous, qu'on lui serve un café chaud et prenez-lui de l'argent.
Merci beaucoup.
Thomas.
Édouard.
Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde du numérique. Moi, j'étais beaucoup en déplacement, vous savez, d'affaires. J'ai appris que les Américains demandaient maintenant votre identité Facebook quand on voulait aller chez eux.
Oui, et pour une quarantaine de pays, dont la France, c'est une demande optionnelle. On n'est pas obligé de donner son identifiant. Mais l'idée, c'est ça. Et non seulement Facebook, mais tout ce qui ressemble de près ou de loin à des réseaux sociaux. Donc, ça peut être Twitter, LinkedIn,
Alors ça, c'est pas l'Amérique de Trump, c'est l'Amérique actuelle.
C'est l'Amérique actuelle, mais ça va être utilisé par l'Amérique de Trump. C'est aussi ça qu'il faut avoir en tête.
Thomas, vous êtes formidable, vous êtes brillant, vous savez des choses, mais nous avons encore mieux sur le sujet.
Oui,
puisqu'on a notre Antonio Casilli, qui est notre consultant.
Voilà, sociologue spécialiste des réseaux sociaux, maître de conférence à la Télécom Paris Tech.
Et puis, il est au téléphone avec un système qui nous permet ni l'un ni l'autre de payer la communication. Bonjour Antonio.
Bonjour à vous.
Ah, c'est très beau cet écho. Est-ce que ça veut dire que vous appelez du fin fond de la campagne italienne ou c'est simplement la technologie qui défaille?
J'en simplement de pas loin de chez vous, mais vous savez, les télécommunications, c'est compliqué. Le dit Trump le dit très bien d'ailleurs. C'est compliqué, les télécommunications et les ordi.
Et puis j'aime bien quand Trump il dit aussi non, mais tout ça c'est le passé, quand on lui dit c'est sans doute les Russes qui ont entièrement truqué la campagne américaine. Non, allez, les Américains veulent parler d'autre chose. Antonio Casilli, ça voudra dire quoi concrètement? On arrive à la douane si on veut aller en Amérique. Qu'est-ce qu'on doit leur dire maintenant pour pouvoir entrer dans leur beau pays?
Concrètement, depuis quelques années, on a des conditions de plus en plus dures, disons, d'identification des gens qui passent la douane et qui, en général, passent les frontières. Et ceci, évidemment, concerne les États-Unis, qui ont toujours été extrêmement jaloux de leurs limites géographiques, on va dire comme ça. Mais, évidemment, c'est un durcissement des contrôles aux frontières qui concerne tous les pays, y compris les nôtres. Et donc, de ce point de vue-là, on est face à un phénomène qu'on peut définir comme un durcissement des identités. Et même si on croyait jusqu'à il y a quelques années que grâce ou avec Internet, on allait faire face à ce qu'on appelle une identité souple, c'est-à-dire la possibilité de se redéfinir, de choisir son pseudonyme, de se présenter comme on le souhaite, de fait, on est face à des gouvernements qui cherchent de plus en plus à nous imposer une seule modalité d'identification.
Alors comment ça se passe précisément? C'est au dernier moment ou c'est au moment de remplir le visa? Est-ce qu'ils scannent les informations? Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de ces identités Facebook?
Sur base volontaire, donc c'est sur base volontaire, donc c'est sur au moment de l'envoi de ce qu'on appelle un formulaire ESTA, c'est pour obtenir le visa, et on demande pour l'instant de manière facultative préciser quels sont ces identifiants Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Alors évidemment, quand on parle d'une démarche volontaire, là on se demande toujours quel est le degré de liberté pour le citoyen qui souhaiterait par exemple ne pas donner cette information. Parce que d'ailleurs on sait très bien que les douanes américaines sont spécialisées désormais dans des démarches optionnelles qui ne sont pas optionnelles du tout. Vous pensez tout simplement au scanner corporel. Officiellement on peut choisir de ne pas passer sous ces portails-là qui nous mettent à nu. Mais de fait, les contraintes sont telles qu'on choisit plutôt de se faire scanneriser et donc regarder à poil plutôt que de passer des heures à se faire tâter par des douaniers ou alors
risquer.
Voilà, oui, c'est selon.
Alors Antonio Casilli, avec ce type de demande, encore une fois, vous le dites, hein, ce sont des requêtes optionnelles, mais bon, il sera sans doute suspect de s'y soustraire. Il y a une question qui se pose, qui est celle du faux ou du fake, ou vous l'avez dit, de l'anonymat, du pseudonyme en ligne. Est-ce que tendanciellement, on va avoir un moment où il sera plus possible d'avoir un autre nom que le sien dans une vie en ligne qui prend de plus en plus de place?
Écoutez, historiquement, c'est-à-dire dans le dernier siècle, on a assisté à un phénomène de multiplication des agences ou plutôt des institutions qui ont identifié les citoyens. Donc si dans le passé, je vous dis, il y a vraiment un siècle, ce n'était que l'État et à certains endroits qui pouvaient octroyer une identité. Donc, en gros, pour obtenir une pièce d'identité, il fallait se rendre, par exemple, dans un bureau officiel pour se faire valider par, justement, un officier. Par contre, progressivement, dans les 50 dernières années, on a eu une multiplication de personnes ou occasions d'identification. La banque, avec, par exemple, votre carte bleue, vous identifie, mais aussi, que sais-je, l'EDF, la GDF, vous identifie au moment où il vous donne une facture, et cette facture, parfois, peut être utilisée comme un document d'identité. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, Internet, Twitter, LinkedIn se posent en intermédiaire d'identité, donc un genre, en gros, une institution ou semi-institution qui produisent de l'identité, eh ben, fait partie de cette longue démarche. Mais en même temps, c'est aussi un combat qui se met en place entre les exigences de l'État et des entreprises d'un côté, et aussi des exigences des citoyens qui ont envie de préserver des limites de leur vie privée et aussi de leur possibilité à se réinventer. Parce que le fait de pouvoir choisir comment je me présente, oui, fait partie effectivement de mes prérogatives de citoyen, et c'est aussi une liberté.
Après, je pense, bon, dans le cas de Thomas Baumgartner, son surnom Lolita Delicious restera... Ça restera les douaniers. Après, il y a quand même une sorte de secret un peu obligatoire quand même. Ils vont pas, ça va...
Ça ne va pas être divulgué.
Tout à fait.
Très bon, ben ça va.
C'est le problème.
Non, non, mais cette question-là, alors en dehors de ma vie privée personnelle, est-ce qu'on peut imaginer, Antonio Cassilli, qu'on puisse revendiquer, militer pour, tout simplement, en ligne, la liberté de choisir son nom?
Oui, c'est l'une des libertés qui, justement, faisait partie des grands combats.
Ah, et voilà. Tout de suite, on est coupé dès qu'il s'agit des gros sujets, des sujets les plus importants.
Bah, prenons des petits combats, voyons si ça marche mieux sur les petits.
Sur les petits combats, on peut imaginer ça.
Ça a été coupé. Je vous propose maintenant, je prends le pouvoir dans cette émission, dans un acte de résistance, de passer un morceau musical et d'essayer peut-être de reparler un petit peu avec Antonio Cassilli juste avant le journal. Restez avec nous. Je pense que nous sommes sur écoute. C'est très bon pour nous. Ou la pub, c'est toujours bien. Il y a moins de pubs cette année.
Il y en a quand même.
7h-9h, Edouard Baer.
Plus près de toi. Yes.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Alors, Antonio, vous avez été censuré ou pas? Allô?
Certainement, il y a eu quelqu'un qui a coupé une ligne téléphonique.
La CIA.
C'est un honneur d'être sur écoute quand même, non? Ça rend, on se sent important.
Malheureusement, c'est une condition très généralisée, et surtout depuis les révélations de Snowden, on sait qu'on y est un peu tous et toutes.
Puis c'est plus poétique comme avant, à l'époque de Mitterrand, être sur écoute, c'était dans une cave de l'Élysée, il y avait trois mecs qui écoutaient vraiment, qui prenaient des notes, et disaient « Président, il vient de dire qu'elle est sous sa douche, je vous la passe », et maintenant c'est plus du tout comme ça.
Mais c'est vrai que cette question, Antonio Cassilli, de devoir donner ses identifiants de réseaux sociaux en entrant sur le territoire des États-Unis, c'est vraiment avant toute chose une question de surveillance et de surveillance même de l'activité au jour le jour, éventuellement de tout un chacun.
Oui, tout à fait. C'est une question de traçage des mouvements, c'est une question d'identification. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que donner un nom, déjà, c'est un acte très chargé, parfois extrêmement violent, parce que le fait de pouvoir choisir une seule modalité d'identification, parfois, sert aussi à vous caser dans une identité qui est établie par quelqu'un d'autre. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de dire, bon, on t'identifie et on met ensemble ce qui est marqué, par exemple, sur ta pièce d'identité, avec ce que tu dis sur Internet, avec le pseudonyme que tu as choisi dans un forum pour discuter, je ne sais pas, de jeux vidéo, de fait, est un acte extrêmement fort qui limite la possibilité de prise de parole libre.
Alors, Antonio Cassilli, est-ce que maintenant tous les réseaux sociaux ou les sites comme ça d'échange sont sous surveillance, ou est-ce qu'il y a encore des endroits où je peux poser des photos de moi en maillot de bain tranquille?
Bah écoutez, si vous voulez poser des questions, des photos de vous en maillot de bain, vous êtes libre pour l'instant, c'est pas ça.
Oui, mais enfin, je veux dire que savoir exactement qui les voit, c'est ça que je voulais dire. Ou est-ce qu'il faut que je fasse comme avant, que je fasse des photos et que je les poste et que je les envoie à quelques amis? Peut-être revenir à ça.
Non, justement, la question est que c'est devenu de plus en plus complexe de choisir qui sont les destinataires de nos photos compromettantes.
C'est ça.
Et que si au début, cette négociation, c'est-à-dire de qui finalement voyait ces contenus, était un peu plus aisée, ou du moins était présentée comme un peu plus linéaire, désormais, on n'est jamais à l'abri de situations, de personnes indiscrètes qui regardent et surtout qui documentent et qui enregistrent. Et ça, c'est en effet le problème qui est aussi lié à la question d'enregistrer les personnes qui rentrent et sortent des frontières d'un pays.
Merci Antonio Cassilli. Antonio, juste avant le journal de Thierry Paret, un tout petit conseil pour quelqu'un qui souhaiterait acquérir un élégant accent italien séduisant comme ça en 2017, qu'est-ce qu'il faut faire?
Malheureusement, il faut malheureusement subir des années de politique italienne.
Ah, c'est ça. Voilà. Parce que c'est un côté, oh là là, la politique, tu sais, Berlusconi,
c'est
ça.
C'est un problème.
Avec les mains, il faut avoir ce fameux parler, ce langage des mains. Merci Antonio, très bonne journée, voire bonne
Merci.
Année, hein, pourquoi pas.
Merci à vous, Edouard.
Salut. Ah, j'adore ce petit truc. Tchin-tcha, il y a un côté tchin-tcha. Bonjour Thierry Paret.
Salut.
Tu n'as pas changé en une demi-heure.
J'ai pas dit bonne année aux auditeurs, donc je le dis quand même. François Hollande est arrivé ce matin en Irak pour une visite d'une journée aux forces françaises.
Le mec est emballé, elle vient de dire bonne année.
Et il s'était déjà rendu sur place, c'était en 2014. 39 morts, 65 blessés, c'est donc le bilan toujours provisoire de l'attaque Contre le club Reina, célèbre discothèque d'Istanbul, la nuit du jour de l'an, l'assaillant qui a ouvert le feu dans la foule a profité de la confusion et de la panique pour s'enfuir. Il n'a toujours pas été arrêté pour le moment. Par ailleurs, il n'y a toujours pas eu de revendication, ce qui n'a pas empêché les autorités turques de dénoncer un acte terroriste en privilégiant la piste de l'État islamique. Il se pourrait que le tireur n'ait pas agi seul, mais c'est difficile à confirmer pour le moment. Plus d'un millier de migrants qui souhaitaient gagner l'Europe ont pris d'assaut hier la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. Un policier a perdu un œil dans les heures qui ont suivi. Deux migrants ou réfugiés seraient parvenus à franchir cette clôture de 6 mètres de haut. Ils ont finalement été arrêtés, grièvement blessés et hospitalisés à Ceuta. Soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux illégaux de la part d'hommes d'affaires, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit être interrogé aujourd'hui par la police. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'indiquent les médias israéliens ce matin. Peut-être un procès exemplaire à Paris, le premier dans ce que l'on appelle l'affaire des biens mal acquis. Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen, est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour détournement de fonds publics et corruption. Il se serait bâti en France un patrimoine considérable avec hôtels privés, voitures de luxe, en détournant la rente pétrolière de son pays par l'intermédiaire notamment d'une filiale de la Société Générale. C'est un classique. Au lendemain de la nuit de la Saint-Sylvestre, les autorités minimisent toujours les incidents. Elles sont toujours rattrapées par les chiffres un ou deux jours plus tard. Ainsi, le réveillon, sans problème majeur du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, s'est soldé finalement par les arrestations de quand même plus de 450 personnes à travers tout le pays, dont 300 qui ont été placées en garde à vue. 650 voitures ont été incendiées. Plusieurs départements ont déclenché le plan grand froid. D'autres pourraient suivre ces prochaines heures. Ce plan prévoit des lieux d'hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile fixe, selon les conditions météo. Et justement, 18 départements ont été placés en vigilance orange hier soir. Les saleuses sont entrées en action cette nuit. Il s'agit de tous les départements de l'Île-de-France et de ceux du Nord. Alors pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais tous pourraient être concernés par des pluies verglaçantes, voire des chutes de neige. Et puis par ailleurs, bien que nous soyons lundi, les vacances scolaires ne se terminent que ce soir. Il faut donc s'attendre à du monde sur les routes et la journée est classée orange dans le sens des retours sur tout le pays. Puisqu'on parle des vacances, j'en profite pour vous dire que cette année, bien que, et ça n'aura échappé à personne, le 1er janvier soit tombé un dimanche, l'année 2017 va être marquée par 6 week-ends de 3 jours, puisque la plupart des jours fériés vont tomber un lundi ou un vendredi, ce qui est plutôt rare.
D'accord. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça?
Ça dépend. Pour le tourisme, ça peut être une bonne nouvelle.
D'accord.
Après, pour les chefs d'entreprise, ça peut être plus compliqué. Tu vois. On en avait parlé avant les vacances, c'est chose faite. Depuis hier, quelques 2000 demandeurs d'emploi finlandais âgés de 25 à 58 ans ont été tirés au sort pour percevoir 560 euros par mois pendant 2 ans. Ils vont tester tout simplement le revenu universel. Et puis, il est décrié, il fait polémique chaque année. Et pourtant, il est toujours là. De quoi s'agit-il ? Du Dakar, le rallye Dakar, 38e du nom. Le coup d'envoi de ce Dakar sera donné aujourd'hui. Les concurrents du rallye vont s'élancer pour 2 semaines à travers le Paraguay, et c'est une première, la Bolivie et l'Argentine, une 38e édition avec des étapes en altitude, ce qui veut dire qu'apparemment, c'est dur. Moi, j'y connais rien, mais apparemment, ça va être dur cette année.
Oui, mais alors, si vous n'y connaissez rien... Attendez, il y a Henri Chapier qui me rappelle. Attends, Henri ? Oui, mon chéri, est-ce que je peux t'appeler en direct, là, de la radio ? Parce que j'ai vu que t'étais à la Légion d'honneur, là.
Oui. Après,
Attends, là je t'ai mis à l'antenne, je te rappelle dans 10 minutes, tu es frais à cette heure-là ou pas? Vers 8h05, je te rappelle.
Hein?
Je te rappelle vers 8h05 si tu veux le temps de te coiffer, te mettre une tenue radio. Non, mon chéri, je te rappelle, et tu nous parles de ta Légion d'honneur, les Français veulent savoir.
Ah,
à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite, c'est le grand Henri Chapier. À tout de suite, Henri. Non seulement les Français veulent savoir, mais les Français ont le droit de savoir. Nous souhaitons tous aussi être commandeurs de la Légion d'honneur. On va avoir des conseils.
Il faut la demander.
Il faut la demander ou la faire demander par quelqu'un. Atmen, vous êtes sur
Moi, j'ai fait demander plein de fois et puis non.
Oui, mon grand, à tout de suite. Il est 37.
7h09, plus près de toi.
Tu dis tout ça.
Donc plutôt, Dominique, vous préférez parler de l'année 2017?
Oui.
Que des vœux de François Hollande.
Oui, bon. En fait, il y a cette année une série d'élections importantes.
Alors attendez, faites semblant qu'on a débriefé, vous allez préparer votre billet maintenant, Dominique Régnier.
Parce que
là, je suis dans les rues de Morlaix.
Ah.
Juste après, on va parler de l'année électorale 2017. On va voir si on peut voter dans d'autres pays que la France et pour qui voter grâce à Dominique Régnier. Nous avons décentralisé Jacques Souvent. Est-ce qu'il a toujours un petit générique, Jacques Souvent, ou pas? Ah oui, il est bien. Ah oui, ça c'est vrai que ça, on est gagnant, parce que tout à coup c'est officiel. C'est plus officiel. La présence de Jacques Souvent, ça devient vraiment une sorte d'institut. Qu'est-ce qu'on entend? Quelqu'un souffle dans quelque chose avec une partie de son corps? j'espère que c'est une partie du haut.
Bonne année à toute l'équipe.
Bonne année, Jacques Souvent. Vous êtes en Bretagne, vous êtes décentralisé.
Ouais, je suis complètement décentralisé.
C'est la loi de fer. Hein. Ouais. On est obligé de vous envoyer de temps en temps en Bretagne. Vous êtes dans les rues de Morlaix.
Bah, je suis dans les rues de Morlaix qui sont complètement désertes, on peut le dire.
Qui souffle dans quoi, là, j'ai entendu du vent?
Bah, c'est les restes de... On souffle dedans et ça gonfle, alors je sais pas ce que c'est.
C'est un ballon, ça s'appelle un ballon, enfin à Paris en tout cas. Et Paris donc, a toujours été un peu arrogant là-dessus.
Bah oui, ici c'est l'extrême occident, hein. Vous savez, ça souffle un peu ici le vent, et en fait dans les... ce genre d'endroit, il y a quand même des lieux sympathiques. C'est
l'extrême occident, donc par temps clair, on voit l'Amérique.
Oui, on voit surtout la station-service ou le bar-tabac. Le bar-tabac, c'est un peu le point central ici.
Alors, est-ce que le bar-tabac est ouvert à 7h41?
Bah, il vient d'ouvrir. Et devant, d'ailleurs, j'ai rencontré... Et donc, il y a les titres de West France. C'est le naufragie du 31, sa nuit échouée sur une île. Donc, il y a quelqu'un qui est parti. Donc, je rentre dans le bar-tabac.
Il fait nuit dans le bar-tabac de Morlaix. Je le connais, le bar-tabac. J'y ai été interdit plusieurs fois.
Bonjour, monsieur. Donc là, c'est le patron, du café. Bonjour monsieur. Tenez. Ah, il est. Et donc il y a deux clients dans le bar café.
C'est des clients de la veille ou des clients?
Un monsieur que j'ai rencontré tout à l'heure qui est syrien, bonjour.
Bonjour.
Ah, et puis une dame. Bonjour madame. C'est le petit café. Je la laisse tranquille. Okay. Voilà, c'est quand même le petit café du matin. Voilà, et puis je vais voir monsieur.
Quel détour de la vie ont amené ce monsieur né en Syrie dans ce café de Morlaix ce matin?
Ah, ça fait 2-3 ans qu'il est là. Hein. Ça fait 2-3 ans que vous êtes là, vous? Attendez, je vous passe un écouteur.
Bonjour monsieur.
Voilà, vous entendez?
Bonjour.
Donc vous êtes arrivé à Morlaix il y a 2-3 ans?
Non.
Ah non.
Je suis arrivé à France il y a 23 ans.
Il y a 33 ans, oui, c'est effectivement, les chiffres qu'on m'a donnés sont approximatifs. On souffre vraiment de l'équipe journalistique de l'émission. Donc il y a 33 ans, on était dans une autre époque d'arrivée de Syriens sur la France. Qu'est-ce qui vous a fait choisir Morlaix, monsieur?
Vous êtes mon ami.
Oui, mais enfin, 33 ans, vous l'avez vu là quand même depuis...
Non. Je suis arrivé en France à 33 ans.
Ah, je vous prie de m'excuser, d'accord.
2014, arrivé en France.
D'accord.
Et ici, avant deux heures.
D'accord. Et ça se passe bien? Les gens sont sympathiques? Vous avez rencontré des gens?
Oui. Ça fait deux heures qu'il attend un café, le monsieur.
Je ne sais pas. Vous avez été très imprécis, Jacques. Souvent, vous mettez dans une situation très délicate. Vous savez, on est tous à 20 ans près dans la vie. Ce n'est pas pareil si je dis « viens dîner à 22h » ou « viens dîner dans 22 ans », Jacques. Et en plus, vous me faites de la friture sur la ligne. Vous n'êtes pas... Ce n'est pas une position gagnant-gagnant aujourd'hui, cette connexion Paris-Morlaix. Rappelez-moi dans 5 minutes. Oui, prenez un café, mettez du café dans les ondes et essayez de m'enlever les sardines qui sont en train de frire entre vous et moi. À tout de suite. Et on retrouve Dominique Régnier pour parler de l'année électorale 2017. Non, pas du tout, Manu. Regardez-moi, Manu. Vous savez qu'on peut être viré dès un premier jour. Mettez un morceau musical, bien sûr. Dominique Régnier, on est très honoré à chaque fois de vous avoir parce que vous nous avez choisi alors que vous êtes demandé par des radios planétaires, des télévisions de grand luxe. Ici, vous arrivez comme ça en voisin, en ami, en stop et en noir ce matin. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Edorbert.
Dominique Régnier, vous voulez pas revenir spécialement, puisque vous êtes notre expert politique, vous voulez pas revenir spécialement sur les vœux de François Hollande. Moi, j'ai dit, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est que 2017, ça va être une année cruciale pour l'Europe, une année électorale très importante.
Oui, non pas que les vœux de François Hollande n'aient pas d'intérêt. Il y a un côté rituel qui est d'ailleurs très, très respectable et auquel on est sans doute attaché.
Je suis comme vous, j'aime les rituels.
Voilà, exactement. Ils ont leur sens et peut-être plus encore par les temps qui courent. Non, simplement, c'est une année étrange 2017 parce qu'il y a pas mal d'élections très importantes qui vont avoir lieu en Europe. Et comme vous le savez, les élections, souvent, c'est un peu ennuyeux quand c'est pas son métier de les observer ou son tour de voter comme citoyen. On se dit, au fond, c'est pas un sujet qui me passionne. C'est plutôt qu'un événement qui est calme et qui est plat, l'élection, dans notre esprit.
On a l'impression quoi? Vous voulez dire que ça se répète? C'est comme les tournois, quoi.
Ouais, c'est un tic-tac. On a l'impression que ça m'intéresse pas. Moi, c'est pas mon affaire, etc. On entend souvent ça. Mais depuis quelque temps, les élections sont devenues très différemment des moments assez risqués, assez compliqués, où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes.
À cause de l'apparition de ces nouvelles forces politiques.
À cause de l'apparition de ces nouvelles forces politiques, de beaucoup de questions que les uns les autres se posent. Vous voyez, bon, typiquement, Trump, une espèce de surgissement, et on ne sait pas trop ce que ça va produire comme effet. On va avoir en mars, aux Pays-Bas, des élections législatives qui sont très importantes, où les populistes peuvent gagner, et ça va être à ce moment-là une grosse tempête sur l'euro, sur l'Europe, et ça aura des effets sur l'élection française.
On ne connaît pas bien les Pays-Bas, c'est un enjeu pour l'Europe, c'est un pays pilier de l'Europe.
Très important, c'est un pays fondateur de l'Europe, c'est un pays qui, comme nous, en 2005, a voté non au traité constitutionnel européen, pour des raisons très différentes, mais qui a voté non. C'est un pays qui est devenu très eurosceptique, avec un parti populiste dirigé par Geert Wilders, qui est très actif, qui représente aujourd'hui la première force potentielle du pays. C'est un pays de la zone euro, c'est pas comme le Royaume-Uni. Donc, une turbulence aux Pays-Bas, c'est une turbulence sur l'euro, la monnaie.
Mais c'est un parti qui propose de sortir de l'euro.
Absolument, ah, oui. Y compris de l'Europe.
Ah oui, oui, d'accord. Et pourtant, qui est très enclavé vraiment au cœur de l'Europe. Là.
Voilà, absolument. Donc,
c'est pas une île. Oui.
Avec une problématique sur l'immigration, l'islam extrêmement tendu. Geert Wilders, c'est celui qui veut faire interdire le courant, hein, qui le compare à Mein Kampf. Donc, c'est des positions très polarisées, extrêmement dures. Mars, ça c'est les Pays-Bas. Avril, mai, juin, c'est la France. Premier, deuxième tour de l'élection présidentielle, avril, mai. Et puis juin, les législatives, on verra. Mais on sait bien que là aussi, c'est compliqué. Et puis en septembre, il y a les élections en Allemagne, qui sont elles aussi... Ça devait être un peu, le petit mouvement habituel avec une victoire d'Angela Merkel ou d'un parti modéré. C'est pas sûr. Parce qu'il y a l'AFD, Alternative pour l'Allemagne, qui est un parti populiste nouveau, mais très puissant, qui pourrait empêcher Angela Merkel d'avoir la majorité.
Mais qui ne peut pas être majoritaire tout seul. Si
non, pas maintenant, mais qui pourrait empêcher Angela Merkel d'avoir la majorité et amener à des majorités un peu bizarres, assez fragiles, là aussi dans le grand pays européen qu'est l'Allemagne, absolument essentiel à la solidité de l'euro. Et puis on aura entre-temps, même si on ne sait pas très bien à quel moment, des élections sans doute en Italie. Mais s'il y avait aujourd'hui des élections en Italie, ce sont les populistes de Beppe Grillo qui l'emporteraient. Hein.
Comment ça se passe à la mairie de Rome, où c'est une élue du mouvement Beppe Grillo?
Absolument, c'est une
Ça n'a pas l'air génial non plus. Ça a l'air de recommencer les histoires de pot de vin.
Ça a l'air de continuer, pour être franc, ça a l'air de continuer. Alors, en même temps, on se dit, c'est peut-être un peu sévère pour cette nouvelle élue de tirer un bilan après quelques mois de présence à la mairie de Rome, qui est une ville éternelle. Mais c'est
Le temps s'arrête pour toujours.
Voilà, exactement. Donc c'est une Rome et Florence sont des villes désormais du mouvement 5 étoiles, mais c'est un mouvement très très puissant, assez passionnant à observer, il faut bien le dire, très créatif, mais très chaotique aussi, et qui s'est durci face à l'immigration, face à l'islam, qui est en train de se métamorphoser. Et qui est aujourd'hui possiblement la première force politique italienne.
Est-ce que ce parti 5 étoiles, il y a un moment où ça fait rire les Italiens avant que ça devienne un peu plus un mouvement un peu plus dur? Est-ce que c'est une façon un peu italienne de voir la politique, un peu plus, je ne sais pas si on dirait décalée, joyeuse, un peu plus...
Quelque chose de jubilatoire, en tout cas, au départ, dans les meetings de Beppe Grillo, c'est extraordinaire quand même. Hein.
Et j'ai l'impression que Macron, il y a des gens qui ont l'air très enthousiastes quand même. Hein.
Bien sûr, il y a quelque chose comme ça. Mais très paradoxalement, Emmanuel Macron, qui est une forme de... par certains côtés, de caricature de l'apparatchik qui appartient aux élites françaises, Hénard, Rothschild, etc. De l'autre côté, c'est l'antisystème également. Hein. La comète qui apparaît tout d'un coup et qui peut faire tout exploser, toutes les prévisions. Écoutez, en 2014, en août, il était encore secrétaire général adjoint de l'Élysée.
Oui.
Là, il est candidat à la présidence de la République, le mieux placé à gauche. On n'a jamais vu ça. Hein. Donc déjà, l'histoire elle-même,
c'est
elle est
assez extraordinaire. C'est un peu comme si on continuait cette conversation sur RTL dans une heure. Thomas Baumgartner, vous êtes le journaliste anti-système de la radio.
C'est ça. Non, mais ce que vous disiez, Dominique Régnier, à l'instant, sur les échéances en Europe, ça complète une carte présente. C'est-à-dire que si on rejoint la Pologne, la Croatie aujourd'hui, ce qu'a failli être l'Autriche à la dernière présidentielle, mais il y a toujours ce risque-là, il existe une ligne quand même de droite extrême et de populisme déjà en place au pouvoir aujourd'hui en Europe.
Absolument, absolument. Vous avez raison. La Pologne et la Hongrie, ce sont deux cas de pays très intéressants où, sans qu'il y ait de victoire électorale des populistes, des partis de la droite classique, une fois au pouvoir, se métamorphosent et transforment leur régime politique démocratique en un régime de type populiste, avec par exemple la réduction du choix électoral, la réduction de la liberté de la presse, la réduction de la liberté des juges. Donc c'est une espèce de transition, non pas démocratique vers la démocratie, mais autoritaire vers une forme de régime autoritaire.
C'est une dérive des régimes qui sont déjà en place.
Absolument.
Malheureux comme un tzigane en Hongrie. On pourrait dire ça. Merci Dominique Reynier.
Merci Edouard Baird.
Vous êtes déplacé. Merci à tous. J'aime bien tout à coup, je ne sais pas pourquoi il y a un ton d'une grande solennité ce matin. Je vous propose une page de publicité. Il y a bon côté 1960 de cette émission.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement
c'est passé
actuelle.
La Vallée Village, Christophe Méné, vous avez tilté sur cette pub. Elle vous a fait kiffer, flipper, flasher.
Exactement, mais c'est surtout, en fait, j'ai rien compris à la pub, mais c'est la voix de la fille.
À la voix de la fille.
À la oui, Vallée oui. Village.
Oui. Mmh. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans son bain, qui ne sait pas qu'elle est en train d'enregistrer une pub. Ça arrive de plus en plus souvent.
Un bain moussant.
Voilà, vous êtes dans votre bain moussant, vous êtes en train de parler, puis
elle
paf, ça
blonde.
Passe en... Elle était blonde et pourtant brune.
Oui.
Je préfère t'entendre. Mais Sacha, tu as vraiment que 10 ans ?
Oui.
Parce que tu fais le double quand même. Parce que dans cette rubrique-là, si je m'aperçois que tu as 20 ans, je vais... elle va être supprimée. Enfin, on y va quand même.
Un enfant, un poème.
Alors, c'est dans ton... Sacha, c'est dans ton cahier. Tu es en quelle classe ?
CM2.
CM2, 7e. Hein, parce que moi, en 1954, c'était la 7e. Quand j'étais en classe. Alors là, il y a plein
la
de...
La 7e compagnie.
Très drôle, Ahmed. D'ailleurs, vous avez remarqué, Ahmed, vous m'avez dit, il y a combien de Louis de Funès pendant
les fêtes ? 6 de Funès pendant les fêtes.
Ah, c'est bien, mais c'est bien.
6 de Funès.
C'est une France très
rassurante. 3 Fantomas, un Rabbi Jacob, un Hibernatus et un Pouic Pouic.
Sur des grosses chaînes de
grosses
télé.
Grosses chaînes. Voilà, il n'y a pas d'acteur, il ne reste que de Funès.
Les vacances de Noël, c'est ça. Alors là, je vois ton cahier de dessin, Sacha. Il y a Espoir, Partage, Bon Baiser, Noël. Bon baiser à Fort-de-France, ah oui, je la connais. Bon baiser de Fort-de-France, Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France, ce soir on éteint la télé. Ce soir ensemble on va... Enfin, c'est pas moi qui suis dans les... Pardon. C'est pas moi un enfant, un poème aujourd'hui. C'est Sacha, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui ?
Alors, il partageait tout.
D'accord, c'est un poème que tu as dit déjà devant
non,
ta maîtresse
pas
ou pas ou ton prof, non ?
Non.
Tu penses que tu vas... Comment ça se passe ? On est volontaire, on lève le doigt ou c'est la prof qui vous...
C'est la prof qui nous dit de passer.
D'accord, et toi, t'as un peu, t'as le cœur qui bat, t'as peur qu'elle te demande ou t'as peur qu'elle te demande pas ?
Non, en général, je les apprends bien, donc ça va.
Alors, regarde, on va faire comme si on était en situation. Atmen, faites la prof, levez-vous, c'est
oui.
Pas possible.
Oui,
Atmen, Sacha. Le Conservatoire National d'Art Dramatique.
Oui, Sacha.
Elle a cette voix-là ou pas ?
Non. Un peu.
Plus elle jeune est que ça ? Décris-la, il va s'adapter, tu vois, voilà, les comédiens.
Elle est petite.
Vas-y.
Oui, petite.
Ah oui, ah oui. Non, mais il s'est baissé, le micro est plus bas. Oui.
Oui.
Et elle a une voix aiguë.
Sacha.
Oui,
peux-tu ça, venir ouais. Au tableau, s'il te plaît, pour dire le petit poème ?
Oui.
Merci, Sacha. Taisez-vous !
Elle me fait rêver. Vas-y, Sacha, on écoute.
Il partageait tout, de Guillevic. Il partageait tout, et avec tous. Quand il avait une pomme, il voulait en donner. Quand il avait un journal, il proposait de le répartir. Quand il fait beau, il distribuait le soleil. Il partageait tout, sauf qu'il n'aimait pas les billets de banque, par exemple.
Ah, c'est pas mal de terminer sur par exemple. Il partageait tout. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce poème ?
J'aime bien parce que le partage, c'est bien. Et moi, j'aime bien aussi partager.
Et tu aimes bien partager ce qui était à toi au départ ou ce qui est à l'autre ?
Ce qui est à moi.
D'accord. Est-ce que tu penses par exemple que la terre est à personne et les fruits sont à tout le monde ?
Oui. Par exemple.
Et ben c'est très bien. Et puis tu sais, je crois que si l'autre ne veut pas partager, tu peux l'aider à partager en allant prendre dans sa poche ce qu'il ne savait pas qu'il voulait te donner. Merci Sacha.
De rien.
C'est la rentrée demain ?
Oui.
Voilà, en attendant, tu peux faire les fouilles d'Atmen Kelly.
Exactement. Bravo.
Ah oui, il n'y a pas de musique, c'est radio associative. Alors mais on envoie directement Thierry Paret.
Le partage, c'est maintenant.
Radio Nova.
François Hollande est arrivé ce matin en Irak, à Bagdad précisément, pour
alors
une visite.
Alors mettez ça en scène, mettez ça, faites un visuel sur François.
C'est vrai
Hollande.
Que ça serait pas mal de faire ça, Ahmed, peut-être.
Non, tout à l'heure, je le ferai après. Okay.
C'est une visite d'une journée aux forces françaises. Il s'était déjà rendu sur place en 2014. Depuis son engagement dans la coalition internationale en septembre 2014, la France a réalisé plus de 5700 sorties aériennes, 1000 frappes et détruit plus de 1700 objectifs en Irak ou en Syrie. C'est ce qu'indiquent les autorités françaises, évidemment. Les autorités turques, elles, sont toujours à la recherche de l'assaillant du club Breïna. Ce dernier a donc ouvert le feu dans la foule de la célèbre discothèque. 3000 mètres carrés, hein, beaucoup de monde à l'intérieur, des centaines de personnes. 39 personnes ont été tuées. Il y a eu aussi 65 blessés. C'est le bilan toujours provisoire de cette attaque, compte tenu des blessés graves, bien sûr. L'auteur de l'attaque a profité de la confusion et de la panique pour s'enfuir. Il n'y a toujours pas de revendication à l'heure qu'il est, ce qui n'a pas empêché les autorités turques de dénoncer un acte terroriste en privilégiant la piste de l'État islamique. Il se pourrait que le tireur n'ait pas agi seul, mais c'est difficile à confirmer pour l'instant. Plus d'un millier de migrants qui souhaitaient gagner l'Europe ont pris d'assaut hier la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. Un policier a perdu un œil dans les heures qui ont suivi. Deux migrants ou réfugiés seraient parvenus à franchir cette clôture qui est quand même haute de 6 mètres hein, de haut. Et ils ont été finalement grièvement blessés, arrêtés donc grièvement blessés et hospitalisés à Ceuta. Soupçonné d'avoir reçu des cadeaux illégaux de la part d'hommes d'affaires, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit être interrogé aujourd'hui par la police, si l'on en croit les médias israéliens ce matin. Peut-être un procès exemplaire à Paris, en tout cas le premier dans ce que l'on appelle l'affaire des biens mal acquis. Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen, est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour détournement de fonds publics et corruption. Il se serait bâti en France un patrimoine considérable avec hôtels privés, voitures de luxe, en détournant la rente pétrolière de son pays par l'intermédiaire, notamment d'une filiale de la Société
Générale. Mais foutez-lui la paix. Il y a beaucoup de jalousie. Alors quoi, voilà, dès que c'est... On peut pas avoir 300-400 millions, s'entendre bien avec son père et avoir... dès qu'on a un immeuble à Avenue Foch, sans voiture et un père président, tout le monde vous emmerde. J'en ai marre de la France, je me casse à Saint-Tropez.
C'est vrai qu'on en fait beaucoup. C'est un classique. Au lendemain de la nuit de la Saint-Sylvestre, les autorités minimisent toujours les incidents. Elles sont généralement toujours rattrapées par les chiffres, un ou deux jours plus tard. Ainsi, le réveillon sans problème majeur du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux s'est soldé par les arrestations de plus de 450 personnes à travers la France, dont 300 qui ont été placées en garde à vue et 650 voitures ont été incendiées.
Alors, il faut... C'est quoi 600 ? C'est comment on incendie une voiture ? Joby, tu as déjà incendié ? Viens, Joby.
C'est pas facile d'incendier
Joby,
une voiture.
Comment on incendie ? Tu connais des gens qui comment ça s'incendie une voiture ?
Les gens ne le disent pas assez. Il y a des gens qui crament leur bagnole.
Au lieu de mettre de l'essence dans le réservoir.
Bah, si tu ouvres le réservoir.
Alors, tu ouvres le réservoir bagnole.
Tu mets un chiffon dans le trou du réservoir. Ouais. Et tu allumes le feu.
Ah, c'est ça. À chaque fois qu'on entend. Alors, tu vois, ça fait des années que j'entends les.
C'est vrai.
Mais les réservoirs, ils sont verrouillés, Joby, les réservoirs.
Il déverrouille avec un tournevis, tout simplement.
D'accord, donc la plupart des 650, de voiture, c'est ça l'histoire.
Je pense. Sinon, tu fais un cocktail Molotov, tout simplement.
Voilà, on a des faits, on a du précis. J'ai envie de... Voilà, merci, pardon Thierry, je sors du journal.
Il n'y aurait aucun souci. Si vous aviez passé le jour de l'an du côté de Los Angeles, alors vous auriez peut-être pu assister à cette performance. Un petit malin, ou plusieurs, a détourné les fameuses lettres qui forment le nom Hollywood sur le mont Lee.
Comment ? Oui, je ne sais pas si vous avez vu les photos sur le net ou dans le journal, il y a écrit Hollywood, ils ont remplacé les deux O par deux E.
Voilà.
Joby, comment on monte sur les collines d'Hollywood ? Comment on enlève les deux O géants et comment on met deux E à la place ?
Ils ne sont pas remplacés. Hein.
Ils ont fait quoi ?
Ils ont coupé avec des draps, ils ont coupé les deux lettres et ils ont rajouté un petit morceau.
Comment on fait, Joby ?
Si tu connais un peu Hollywood, quand tu arrives en fin de bout de rue, tu peux rentrer par derrière et descendre. En fin de compte, tu descends la colline.
Il y a une coupure d'antenne. Alors, on est à l'antenne là ou pas ?
Bah oui.
Alors, il y a une coupure d'antenne. Je ne sais pas ce qui s'est passé au moment où on était au milieu du journal de Thierry Paré. Rappelez-vous, nous étions plus jeunes. Si jamais vous rappelez ce qu'on était en train de dire avant la coupure d'antenne, appelez-nous. Appelez, on vous passe à l'antenne. 01 43 07 58 85. Eugénie va décrocher. 01 43 07 58 85. Thierry Paré, tu étais dans le journal où... Thierry Paré, c'est lui qui est allé réparer, c'est formidable. C'est une maison de campagne, cette radio, on est là, on est au milieu
Thierry
des bois.
Thierry, t'es trop fort.
Moi j'ai toujours de la musique à l'antenne, là, donc du coup ça doit...
Tu vois.
Là, c'est nous.
Il y a un petit décalage.
On est en décalage.
C'est drôle, c'est nous.
C'est très très bizarre. On va débriefer ton truc. Attends, on t'écoute, on va débriefer.
Si jamais vous rappelez ce qu'on était en train de dire avant la coupure d'antenne, appelez-nous. Voilà. Appelez, on vous passe à l'antenne. 01 43 07 58 85. Eugénie va décrocher. 01 43 07 58 85. Thierry Paré, tu étais dans le journal ? Oui. Alors, il paraît qu'il y a trop de chauffage dans l'immeuble et donc que ça couperait l'électricité. Parce qu'ici, l'électricité n'est pas faite comme chez vous. Ici, c'est trois mecs qui pédalent dans la cave et on crée notre propre électricité. Ici, on recycle tout. Bruno ?
Oui, bonjour Edouard.
Bonjour Bruno, j'ai lancé un appel à l'antenne aux auditeurs, bonjour, pour savoir ce qu'on était en train de dire quand ça a coupé. Donc vous étiez en train d'écouter Nova ?
J'étais en train d'écouter Nova comme tous les matins, ce superbe journal.
Bah, c'est sympa.
Et puis ça a coupé au beau milieu de l'info, je pense, la plus cruciale du matin.
Oui.
Savoir comment transformer deux lettres O d'Hollywood, c'était un mystère. Et apparemment, ça devait être des draps, mais après, on ne sait plus.
Oui, parce qu'on a, on a un conseiller en coup fourré qui est Joby, qui commence aujourd'hui. Tout à l'heure, il nous a expliqué exactement, parce que ça fait des années qu'on entend que des voitures sont brûlées au réveillon, il nous a expliqué comment ça avait lieu. Et Joby, tu nous disais que remplacer deux lettres de Hollywood de O par deux E, c'était simple.
Moi, c'est relativement facile, parce qu'en fin de compte, quand tu arrives au bout, si tu connais un peu Hollywood, tu arrives au bout de la rue. Donc, tu descends en rappel, tranquillement, ouais. Tu essaies de ne pas te faire piquer par les flics. Et puis après, tu démontres tranquillement les lettres. Et tu voilà, les remplaces, tout simplement.
Tu les remplaces ou tu mets là, je crois que c'est des draps, c'est des copains, toi qui as fait ça. Bruno, vous appelez d'où ?
Eh bien, j'appelle d'un endroit où il y a plein de brouillard. Je ne sais pas trop où je suis, en fait.
D'accord, donc vous êtes un peu perdu.
Je partais au boulot.
Parce que donc c'est, vous êtes dans quel coin, Bruno ?
En région parisienne, du côté de Clamart.
Vous allez bosser dans quoi ?
Dans une société, bon, je ne vais pas la citer, mais dans une société qui commercialise des piles.
Alors, elle les commercialise, elle ne les fabrique pas. Vous êtes intermédiaire, vous êtes grossiste. Soyez Bruno, je veux des faits.
Précis. Je sais qu'avec vous, Edouard, il faut être très précis. Je sais, malheureusement. Alors, la société s'appelle Energizer. Nous fabriquons des piles et nous les distribuons sur le marché français, grec, russe, un petit peu partout en Europe.
Mais je connais Energizer.
Oui.
Écoutez, Bruno, donc vous avez choisi la Grèce en numéro 2. Je sens chez vous une envie de soleil, une envie d'île. Hein, c'est pas anodin. Ensuite, vous avez dit la Russie. Vous avez donc réintégré la Grande Russie dans l'Europe. Et je trouve que c'est un très beau geste que vous faites vers Poutine.
La mère patrie, bien sûr.
Cher Bruno, très bonne journée à vous.
Juste un truc.
Oui, Atmen, je vous passe Atmen. Oui.
Le plus gros chiffre d'affaires des piles, il paraît que c'est le 24 au soir avec les jouets. C'est vrai ou pas ?
Vrai,
voilà. Mal. Je voulais juste avoir cette info.
Bravo Atmen, bravo Bruno, c'est pas mon petit Christophe Méné qui aurait dit ça. Hein.
Non, c'est vrai, je n'aurais rien dit.
Bonne journée Bruno.
Bonne journée à vous.
Tout de suite, nous allons prendre des nouvelles de nos correspondants régions cette nouvelle année. Comment vont-ils ? Comment se sent-ils ? Comment abordent-ils ce nouveau pas millénaire, cette nouvelle année ? Marjorie, qui est, je rappelle, qui est aide-soignante de nuit à la maison de retraite de Pézilla. À côté de Perpignan, je crois. Bonjour Marjorie, ça va ? Marjorie ? Je crois que ça continue, le chauffage est en train de faire péter les téléphones, les ondes. Admet s'est évanoui, Christophe Méné en profite pour faire les fouilles des invités. Marjorie, je crois qu'on n'arrive pas à vous avoir. Est-ce qu'on a quand même Bouchta ? Tout a planté, me dit Eugénie. Eh bien, tout a planté, il y a un capitaine dans ce bateau.
Mon petit Léon !
Si chez vous aussi vous sentez que tout plante, que plus rien n'est comme avant, n'ayez pas peur, rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ça la bonne nouvelle, il n'y a pas de 2017 qui compte, il n'y a pas de 2018. Ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question d'année, c'est une question de volonté. C'est en plantant tout que nous irons de l'avant, nous reconstruirons sur des décombres de ces cendres, nous ferons des peintures de guerre. En avant les sioux, vers 8h, envoie de la musique, envoie du machin et fais-moi un café calva, tiens. À tout de suite. Dans le chaos général de ce matin, de cette première émission de rentrée où tout s'arrête, tout reprend, nous sommes ici avec Marie Misset, nous sommes avec Atmen Kelif, Christophe Méné, bien sûr, de sinistre mémoire. Hein.
C'est le radeau
bien
de la Méduse.
Vous savez qu'on est. Je suis passé pendant ce Noël, je suis allé voir Benoît Poulvord dans sa retraite du sud de Sénégal et il a un message pour vous que j'ai oublié. Alors tout de suite, on appelle en région. On était avec Marjorie qui est soignante. C'est bien, non, c'est une fausse annonce comme ça. C'est un espoir qui naît. Quel est le message africain de Benoît Poulvord ?
Non, je te l'aurais fait, Benoît, comme
c'est brillant, un accent belge. Parce qu'on manquait celui-là. Vous m'avez fait déjà des accents africains.
Vous m'avez
fait
des
petites blagues couscous car. Bien, Atmen, bien. Bon accent, une imitation, une Michel Lébit du matin. C'est bien. Marjorie ?
Oui,
comment ça va, Marjorie ?
Oui, ça va très bien.
Bonne année, Marjorie.
Bonne année à vous aussi, à toute l'équipe.
Comment ça se passe le 31 décembre dans une maison de retraite ? Vous avez organisé un réveillon pour les pensionnaires ?
Oui, ils avaient organisé un réveillon un petit peu plus dans la journée, mais qui s'est étalé sur mes heures de travail. Et j'ai un petit peu couché tout le monde d'après, quoi, mais c'était assez sympa. Ils avaient prévu un petit orchestre avec des petites douceurs et de quoi boire, donc c'était quand même sympa.
Vous avez senti que les gens étaient contents ou il y en a que
oui,
plus rien n'atteint ?
J'ai la chance de travailler dans une structure où les familles participent pas mal, donc il y avait beaucoup de familles. Donc c'était quand même assez sympa. Quoi.
Donc c'est plus gai parce que c'est toujours pareil, les maisons de retraite, ça ne vit que quand les enfants et les petits-enfants passent.
Et oui, c'est ça.
Oui, et oui, ils passent pas beaucoup ?
Ça dépend. Enfin, comme je vous dis, là où je travaille, ça va quand même.
Bon.
C'est une structure qui est assez dynamique, donc en règle générale, ça va. Il y a pas mal d'intervenants aussi, donc ça va.
Bon, très bien, Marjorie. Vous êtes passée nous voir juste avant les fêtes, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer.
Moi aussi, c'était vraiment super. Vous m'avez super bien accueillie, je me suis régalée.
Bon, alors, tout ça, il faudra le rendre un jour. Salut, on vous embrasse très très fort, Marjorie.
Moi aussi,
très bonne journée,
bonne journée
à vous. On est à Marseille ou à Bordeaux, là, Eugénie?
À Marseille.
Alors, Bouchta, notre correspondant marseillais, qui est déjà une star, parce que plein de gens à Marseille me disent, putain, Bouchta, il pourrait commercialiser
bel
des
accent,
trucs à son nom.
Bel accent.
Oui, ben, moi aussi, je l'ai fait, les accents. Bouchta n'est pas à Marseille en ce moment. Je crois qu'il est, d'après ce qu'on me dit, chez sa sœur à la montagne. C'est les seules informations que j'ai. Bouchta?
Bonjour, Edouard.
Comment vas-tu?
Bonne année, mon poussin, je vais très bien. Je suis plein d'oxygène ici.
C'est important hein, de faire le plein d'oxygène, Bouchta, par les temps qui courent.
Oh, je suis trop bien, je suis à Bray. Tu connais Bray?
Pas personnellement.
C'est à côté de Tende. Quand tu quittes Vintimille, tu pars à gauche. Au lieu d'aller vers le San Remo, tu vas vers la gauche et tu arrives...
Alors attends, j'arrive à Vintimille. Là, je vois écrit San Remo, là. Ah bah non, faut pas le prendre. Il faut aller de l'autre côté.
Bravo, tu longes les montagnes, c'est là où ils passent pendant la guerre, pendant les réfugiés,
ouais,
ça continue encore, mon beau.
Donc tu es dans les Alpes italiennes, tu es dans quoi?
Je suis entre les deux, je suis entre l'Italie, j'ai un pied en Italie et un pied en France, et au milieu il y a le village de ma sœur.
Il y a une communauté marseillaise là, réfugiée dans la montagne?
Oh oui, il n'y a que ma sœur, avec sa fille magnifique Amel, qui est soignante elle aussi, elle a sa fille Smaïlia qui est infirmière à Monaco... Voilà, mon beau. La vie est belle ici.
Tout va bien? Tu as des résolutions pour 2017, toi, Bouchta?
J'espère que toute la France, elle devient comme Bray, parce qu'il y a un lac magnifique avec des cygnes blancs, je dirais, sans laver avec K2R blanco-blanc. Il y a le lac magnifique, transparent, je dirais, des lagons là-bas de Tahiti. Les gens sont gentils, te disent bonjour, c'est beau, c'est des oliviers, des mandarines, des oranges.
Alors, il y a des choses qu'on peut changer, effectivement, un peu comme à Brest, c'est-à-dire qu'on peut se dire bonjour, mais on ne peut pas rajouter des lacs où il n'y en a pas, quand même. Si tu veux qu'on creuse des lacs, j'ai pas compris.
Ah oui, il faut, il y en a marre, hein. La Seine, elle tourne en rond, il faut prendre un morceau, comme ils ont fait Paris-Plage, il faut faire Lagon-Plage.
Donc, des lagons, il faut tahitiser le nord de la France.
Voilà, il y en a marre, ils sont tous en dépression, ils ont tous besoin de vitamine D contre la dépression, c'est le soleil, le sud qui charge les gens.
Et est-ce que quelqu'un des bords de mer comme toi, quelqu'un du sud de la Méditerranée, du vieux port, est-ce que tu t'adaptes bien à la montagne, est-ce que tu glisses?
Non mais c'est à deux pas, la mer, elle a deux pas mon beau. Prends la route, je lève le frein à main, je tombe dans la mer.
Eh bien voilà, quand vous êtes à la montagne, allez à la mer. Merci Bouchta, on t'embrasse très fort.
Je t'embrasse très fort. Bonne année du mystère à Nova et à toute l'équipe. La santé, les autres vont tous se faire voir.
D'accord, santé, prospérité, commerce, comme on dit à Bâle. Tout de suite avec Tito, bassin d'Arcachon.
Allô, bonne année à vous tous, les
amis. Cet enchaînement de voix, des accents, c'est magnifique. Tito, ta voix nous réjouit, tu m'en soleilles les oreilles, Tito, ce matin.
Ça fait un plaisir, c'est chouette.
Qu'est-ce que tu vois là, tu es où?
Alors, je suis à la dune du Pilat, je suis dans la dune des merveilles d'Aquitaine. Qu'est-ce que je vois? J'ai du sable, j'ai l'océan, j'ai le banc d'Arguin, j'ai des bancs d'huîtres. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu veux démarrer comme ça une année? C'est extraordinaire.
Une année huître, une année coquille, une année...
Ouais, c'est que je le sens comme ça. De toute façon, il faut manger des huîtres, c'est très bon pour la santé. Et ça fait partie de cette nouvelle année.
Tu es près de chez l'ami Dupuche, là-bas?
Alors, il est en face, il est de l'autre côté du bassin. Hein. Il est tout à fait de l'autre côté. Alors, je ne vois pas sa maison, mais je pourrais la voir.
Alors, je te laisse traverser à la nage et aller un petit peu aller chez Joël Dupuche, l'ostréiculteur du bassin d'Arcachon. Ouais.
Je vous embrasse, les amis.
Bonne année. À très vite.
Et rakatakatam, poum, payeram, pam, tilititon.
Il n'y en a pas à nouveau sur 2017?
Aïe, aïe, tilititri. Et les talatatran, et les pilipimpim, pif, paf.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Tout de suite. Elle est de retour, après des vacances bien méritées, au soleil d'elle-même, Marie Misset.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu dis? Il y a Thomas Baumgartner, je suis en présentation de Marie Misset, ne me faites pas des signes.
Qu'est-ce qu'il y a?
Pub.
Ah, pub? Ah bon? il me fait des gestes incroyables, il me dit juste pub.
Pub, là non. Voilà.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Mais c'est mieux que de comprendre tout et que ce soit pas bien, bien sûr. Marie, c'est fini de parler au fond du studio, Joby?
Désolé.
C'est pas vrai,
c'est
ça?
C'est un nouveau...
Alors, tiens, il y a ta fille, Yatmen, qui se rendort. Parce que les enfants n'ont pas classe aujourd'hui. Et alors, où sont les stages 3e sont terminés. Donc, on ne peut pas, on ne sait pas. On ne sait pas, on est là, on leur donne des croissants, on essaie de les rendormir. Et pendant ce temps-là, Marie Misset est là, est superbe. Bonjour, Marie.
Bonjour, Edouard. Bonjour, tout le monde.
Alors, qu'est-ce qu'il y a... Ah oui, si elle a son jingle, oui. Si. Pardon, qu'est-ce Manu.
La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour. Ah, c'est quand même autre chose. Hein.
Alors au début, j'ai voulu être un peu légère dans cette revue de presse pour le 2 janvier. Je me suis dit que ce serait plus simple de rentrer doucement, parler de pommeau de douche intelligent et sournois, par exemple, qui vous dénonce quand vous utilisez trop d'eau. Petit objet célébré dans la croix ce matin.
Ah, je ne savais pas. Et donc,
il vous dénonce à votre famille.
Et quand on ne prend pas assez sa douche, il ne vous appelle pas. Vous n'avez pas un cri qui vient de la douche qui dit « Viens, viens !»
Être sale, c'est la nouvelle manière d'être écolo, Edouard. Ah. Oui. Des casques réfrigérants, sinon, découverts dans le Parisien, que le Qatar a mis au point pour que les ouvriers cessent de mourir sur les chantiers du Mondial 2022. Mais l'atmosphère un peu lyrique, un peu grandiloquente qui règne dans les journées ce matin a eu raison de moi à planter sa graine. Je vais donc vous parler de guerre et de paix. Tout commence avec un appel à la non-violence. C'était dans les tribunes de La Croix. C'est Jean-Marie Muller, philosophe, qui reprend le programme de promotion de la non-violence du pape François. On est bien dans La Croix. Il s'est époumonné, le pape, hier, 1er janvier, journée mondiale de la paix. Une journée mondiale dont Istanbul n'a pas vu la couleur. Pour Jean-Marie Muller, la non-violence, c'est pas une fuite, ce n'est pas une façon de nier le conflit, ce n'est pas déserter le combat. Au contraire, la non-violence, c'est une véritable lutte et c'est la seule qui rende les négociations possibles. Là où, toujours d'après Jean-Marie, ce qui caractérise le plus grand nombre de conflits, c'est précisément qu'ils rendent toute négociation impossible. Ces mots anti-guerre rencontrent un écho très particulier quand on enchaîne avec la lecture du dossier spécial du Monde de ce week-end. C'était consacré aux 15 ans de l'attentat du Wall Street Center. Quand vous commencez à recourir à la violence, vous ouvrez la boîte de Pandore. Et ça, ce sont les mots du reporter de guerre, prix Pulitzer et écrivain Chris Hedges, qui dit notamment un truc pour faire bondir dans les chaumières en parlant des terroristes. Ces gens ont appris à parler le langage que nous leur avons enseigné. En tout cas, le plus étonnant ou pas dans ce dossier du Monde, c'est de découvrir que les gens qui haïssent le plus la guerre aux États-Unis, ce sont donc ceux qui l'ont vu de près, reporters de guerre ou plus largement, les soldats et leurs familles. Le pilote d'hélicoptère Tim Leroux, par exemple, qui a servi à Mossoul avec le général Petrus et qui se consacre désormais exclusivement à l'accompagnement et à l'aide des Afghans, Irakiens et Syriens qui ont immigré aux États-Unis après la guerre, en souvenir entre autres de son chauffeur Abbas en Irak. Longtemps pro-guerre, il confie au Monde que lorsque quelqu'un aujourd'hui défend cette invasion, cela me paraît être de la pure folie. Ce dossier du Monde sur les 15 ans du 11 septembre finit par ces mots qu'il veut sans doute prophétique de Chris Hedges. Le problème des empires, c'est qu'ils s'étendent au-delà de leurs capacités et finissent par s'écrouler de l'intérieur. Sauf que parfois, faire en sorte qu'un pays s'écroule de l'intérieur, c'est une stratégie d'apprenti sorcier, certes, mais une stratégie de guerre française, parfaitement théorisée et expliquée dans le dernier numéro de la revue dessinée, une revue qui s'attache à parler de l'actualité en BD. La revue dessinée réserve donc de longues pages au concept de guerre révolutionnaire. C'est une doctrine qui a été beaucoup utilisée lors de la guerre d'Algérie, qui a été ensuite importée par l'armée américaine et qui consiste tout simplement à transformer les civils en armes, souvent en désignant un ennemi de l'intérieur. Une stratégie qui a fait ses preuves très très sanglantes au Rwanda. Cette 7e arme aurait dû rester dans les livres d'histoire, écrivent les auteurs de la BD, mais les événements actuels pourraient en décider autrement. Et dans le Monde, un des immigrés afghans, aidé par Tim Leroux, qui croit malgré tout au rêve américain, en est la preuve vivante. Il raconte qu'il s'est fait virer de son poste de vigile dans une université américaine parce qu'une étudiante effrayée par ses yeux noirs et son teint buriné s'était plainte de son apparence trop arabe. Sur ce, bonne année.
Merci Marie Misset. Tout de suite Jacques Souvent. Jacques, où es-tu ?
Je suis sur le bord de la route.
Oui, laquelle ?
La route, je ne sais pas, c'est quelle route ?
Ah ben, c'est la route qui mène directement sur la magnifique baie de Morlaix, le long de la Corniche, et donc jusqu'à Carantec et Roscoff, que vous devez connaître.
C'est beau par là, Carantec.
C'est magnifique, ouais. C'est un des joyaux de la Bretagne, la baie de Morlaix. Morlaix, Carantec, Plouganou, tout ça, c'est des coins à découvrir.
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'ailleurs ?
Comment ?
Qu'est-ce qu'il y aurait de plus beau qu'ailleurs, spécialement ?
Je n'ai pas dit plus beau, j'ai dit différent.
C'est très joli, cher monsieur.
Eh bien, oui.
Qu'est-ce qui vous saute aux yeux, sans agressivité, bien sûr, lorsque vous arrivez dans la baie de Morlaix ? N'oubliez pas le X, les enfants, à la dictée.
Alors, ce qui vous saute aux yeux, d'abord, c'est le viaduc qui est le symbole de la ville de Morlaix, puisqu'on arrive souvent par le train. Et quand vous arrivez de Paris par le train, vous passez sur le viaduc avec une vue magnifique de, des vieilles maisons de Morlaix, de toute l'architecture très particulière à la ville.
Mais cher monsieur, la meilleure façon de voir le viaduc n'est pas d'être dessus, parce que je crois que lorsqu'on est dessus, à moins de se pencher très fort, et ne le faites pas les enfants, on ne voit pas sur quoi on passe.
Juste remarque. Donc, dans ce cas de figure, on attend d'être arrivé sagement. Et après, on peut descendre du train et puis même passer sur le viaduc, au premier étage du viaduc, sans crainte pour le train.
Ou alors un saut à l'élastique ?
Non. Par contre, le Père Noël est descendu du viaduc le 24 décembre.
Est-ce le même Père Noël que dans les autres villes de France, ou y a-t-il un Père Noël morlaisien, si ce mot existe particulièrement ?
Non. Le Père Noël, il y en a. Enfin, à ma connaissance, il n'y en a qu'un. Hein. C'est donc, le seul, l'unique, le vrai, quoi.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un Père Noël qui sillonne le monde, ou qu'il y en a un par région ?
Non, il n'y en a qu'un. Hein. Depuis que je suis tout petit, on m'a toujours dit qu'il n'y en avait qu'un. Hein.
C'est une approche très bretonne du phénomène. Je vous remercie. Qu'allez-vous faire, cher monsieur, ce matin à Morlaix ?
Alors, moi, je viens de rouvrir mon hôtel, l'hôtel du port, ici, sur le port, comme son nom l'indique. Et donc, pour bien démarrer l'année, on entame toute une série de travaux qui vont remettre l'hôtel complètement à neuf.
Quand rouvrira l'hôtel du port ?
Alors, il reste ouvert partiellement.
Si je voulais venir ce week-end, cher monsieur, quel est votre prix d'appel ?
Alors, on va dire pour deux personnes, pour une chambre avec vue sur le port, par exemple, il y en a tout de suite pour 55 euros.
Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis deux personnes, et qu'est-ce qui vous dit que j'ai envie de voir le port ?
Alors, parce que deux personnes...
Une personne, vue parking, c'est combien ?
J'ai pas de parking, monsieur Baird.
Eh bien, vous en construirez un, cher monsieur, à ce week-end à Morlaix. Merci, cher monsieur.
Je vous en prie.
À l'hôtel du port.
Oui,
passer sur le viaduc, s'arrêter à la gare de Morlaix, demander la direction du port, se faire prendre en stop par une bonne sœur à cornette, monter dans sa deux chevaux, l'écouter... Parler du temps qui reviendra, de ces nuages qui s'amoncellent et à travers lequel parfois le soleil perce, arriver à l'hôtel du port, demander la chambre avec vue sur rien, la discuter ferme, avoir le petit déjeuner offert, et puis rentrer, un petit moment de bonheur ce matin. À tout de suite.
Radio Nova.
C'est le journal, mais on dérape complètement.
C'est pas
il est
8h35,
j'en ai marre, j'ai honte de moi, je me sens sale ce matin. Et il faut qu'on appelle Henri Chapier pour le réveiller, parce qu'il est commandeur de la Légion d'honneur ce matin. Atmen Khelif, c'était sur quoi ta rubrique ?
C'était sur les disparus de la quinzaine.
Ça veut dire quoi ?
Mais il y a George Michael,
Il y aura peut-être des morts d'ici là.
Vous savez ce que vous méritez, les gars ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi.
Vous méritez une fessée, tout simplement.
Enfin, des promesses.
Ah oui, mais seulement voilà, la fessée est désormais interdite en France. Hein. Notre pays est le 52e à interdire cette sévice corporelle, et c'est très sérieux, hein, bien sûr. La Suède a été le premier État à légiférer contre les châtiments corporels sur les enfants. L'Observatoire de la violence éducative ordinaire, qui recense les pays abolitionnistes, note toutefois que la législation n'est qu'un premier pas et n'est pas toujours assortie de mesures permettant son application. Quelle que soit la saison, la situation est dramatique pour les personnes sans domicile fixe. L'hiver, et seulement l'hiver, les autorités activent un plan particulier, le bien nommé plan Grand Froid, qui permet d'ouvrir des hébergements supplémentaires. Ce plan a été déclenché dans plusieurs départements ces dernières heures. D'autres vont suivre rapidement. Après l'hiver, ces hébergements refermeront leurs portes, mais le nombre de personnes sans domicile fixe, lui, restera identique. 18 départements ont été placés en vigilance orange hier soir. Les saleuses sont entrées en action cette nuit. Il s'agit de tous les départements de l'Île-de-France et de ceux du Nord. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Mais tous pourraient être concernés dans la journée par des pluies verglaçantes, voire des chutes de neige. Et puis, bien que nous soyons lundi, les vacances scolaires ne se terminent que ce soir. Il faut donc s'attendre à du monde sur les routes aujourd'hui. La journée est classée orange dans le sens des retours sur tout le pays. Puisqu'on parle des vacances, j'en profite pour vous dire que cette année, bien que le 1er janvier soit tombé un dimanche, l'année 2007 va être marquée par 6 week-ends de 3 jours, puisque la plupart des jours fériés vont tomber un lundi ou un vendredi. C'est un classique. Au lendemain de la nuit de la Saint-Sylvestre, les autorités minimisent toujours les incidents. Elles sont généralement rattrapées par les chiffres un ou deux jours plus tard. C'est encore le cas cette année. Hein. Ainsi, le réveillon sans problème majeur du ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux s'est soldé par les arrestations de plus de 450 personnes à travers la France, dont 300 qui ont été placées en garde à vue et 650 voitures ont été incendiées. Depuis hier, donc le 1er janvier, on n'est plus forcé de passer devant le juge pour divorcer par consentement mutuel. Hein. Une simple convention signée par les conjoints et leur avocat suffit. Il y a beaucoup de changements. Ce 1er janvier, on ne va pas tous les citer.
Ça va désengorger les tribunaux.
Parce que c'est ça l'objectif. Tu as tout à fait raison, Edouard. C'est ça l'objectif.
Merci,
je ne sais pas.
Tous.
On verra. Voilà. Merci pour cette.
C'était brillant.
C'était parfait.
Ah non, mais vraiment, on attend.
Peut-être un procès exemplaire
à
Paris.
Il y a des gens qui arrivent.
En tout cas, c'est le premier dans ce que l'on appelle l'affaire des biens mal acquis. Théodorin Obiang, fils du président équato-guinéen, est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour détournement de fonds publics et corruption. Il se serait bâti en France un patrimoine considérable à base d'hôtels privés, voitures de luxe, etc. en détournant la rente pétrolière de son pays par l'intermédiaire, notamment d'une filiale de la Société Générale. François Hollande est arrivé en Irak ce matin à Bagdad pour une visite d'une journée aux forces françaises. Il s'était déjà rendu sur place en 2014. Les autorités turques sont toujours à la recherche de l'assaillant du club Reina. Ce dernier a donc ouvert le feu dans la foule de la célèbre discothèque, tuant 39 personnes. Il y a eu aussi 65 blessés. C'est un bilan toujours provisoire, hein, compte tenu du nombre de blessés graves. Plus d'un millier de migrants qui souhaitaient gagner l'Europe ont pris d'assaut hier la double clôture séparant le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. Un policier a perdu un œil dans les heures qui ont suivi. Deux migrants ou réfugiés seraient parvenus à franchir cette clôture, 6 mètres de haut quand même. Hein. Ils ont finalement été arrêtés, grièvement blessés et hospitalisés. On en avait parlé avant les vacances, c'est chose faite. Depuis hier, quelques 2000 demandeurs d'emploi finlandais âgés de 25 à 58 ans ont été tirés au sort pour percevoir 560 € par mois pendant 2 ans. Ils vont tout simplement tester le revenu universel. Et puis, plus de 60 morts depuis son lancement en 78, c'est le bilan du rallye Dakar. Malgré la polémique, le départ du 38e Dakar sera donné tout à l'heure. Les concurrents du rallye vont s'élancer pour deux semaines de course à travers le Paraguay, c'est une nouveauté, la Bolivie et l'Argentine.
Merci Thierry Paret. Ahmed Kelly voulait dire quelque chose.
Oui, je voulais revenir sur la fessée très rapidement.
Oui.
Est-ce que c'est rétroactif par rapport à ce qu'on peut porter plainte contre ses parents beaucoup plus tard, 30 ans après?
Oh, t'as pris cher, toi.
J'ai pris très cher.
Ah, c'est pour ça que vous m'aviez demandé la parole, c'est pour ça.
Oui, parce que j'ai pris cher, mon chéri.
Ben, mon grand, tu as pris, tapé sur les fesses, ça n'a pas été ça sage. Alors, Christophe Méné, il y a des fans de Giorgio, le chanteur, rappeur, le grand Giorgio, et là, est arrivé, répété. Avec qui êtes-vous là?
Voilà, là, je suis avec Laure, Clémentine et Eva.
Mais on veut les entendre, j'en ai marre.
Alors, parlez, tenez, je vous donne le micro.
Giorgio. Non mais pas, je vous donne le micro, posez une question.
Mais j'ai pas de question.
Mais tu as toujours, quand tu es face à trois jeunes femmes, mais tu es un vieux dragueur, si tu vois trois beautés comme ça, tu leur dis comment ça va, vous êtes des fans de Giorgio?
Moi je connais pas beaucoup. Bah, fans, on aime bien.
Voilà, on aime bien, elles sont timides, bien sûr, c'est pas vrai, elles ont des t-shirts Giorgio Forever. Il y en a une qui a son numéro de téléphone avec un portrait de Giorgio à la salle de muscu. À tout de suite, parce qu'on me dit qu'on n'arrête pas de parler, que c'est aussi une radio musicale. Chaque année, dans le 1er janvier, beaucoup de gens qui se sont bien comportés reçoivent la Légion d'honneur. Et là, je vois Henri Chapier, notre ami.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
Journaliste, écrivain, homme de radio, de télévision, spécialiste de la photo, de l'image... Poète, charmant Henri Chapier, comment il a dû être heureux en se réveillant de savoir qu'il était commandeur de la Légion d'honneur. Bonjour Henri. Comment ça va?
Ça a été noté, et bien tant mieux.
Je t'entends très mal Henri là.
Comment?
Là je t'entends mieux. Donc, comment vas-tu?
Ça va, j'ai certains pépins, mais ils sont passés maintenant et ça va mieux. Et donc, voilà.
Tu es très aimé à Nova, tu as beaucoup officié ici, les gens se rappellent, tu avais une émission formidable.
Ah oui, mais à Nova, j'ai donné 15 ans de ma vie, je dois dire.
15 ans de ta vie.
J'aimais beaucoup.
Il faut que tu te rapproches du téléphone si tu veux qu'on fasse cette 16e année, mon chéri.
Oui. Donc, je suis au bon temps, si je parle. Je parle assez fort, ça va.
Alors, est-ce que ça fait commandeur de la Légion d'honneur, c'est très important, parce qu'il y a d'abord chevalier, c'est juste un petit ruban rouge, là on vous salue à peine, officier, on commence déjà à recevoir du gratuit dans des bistrots, et ensuite commandeur, là on est quasiment, c'est des choses de ministre.
Dans la tombe.
Hein? C'est quoi?
On est quasiment dans la tombe.
Non, tu n'es pas dans la tombe du tout, mais tu es au réveil, tu es dans ton lit, c'est pour ça que je voulais t'appeler à ce matin-là, est-ce qu'on te réveille?
Oui. Il y a eu un petit problème hier, mais ça s'est réglé.
Tu t'habilles comment? Tu dors comment, Henri? Tu as un pyjama? Tu pratiques encore la nudité?
Non, j'ai des tas de t-shirts.
Un empilement de t-shirts. Est-ce qu'il y a des
oui,
choses? Il y a des choses écrites sur ces t-shirts?
Ah oui.
Nos futurs, fait que.
Des slogans, du moins de la photo à Paris. Et il y a des signatures d'acteurs souvent encore sur scène.
Tu t'es fait dédicacer des t-shirts, Henri?
Oui, des t-shirts.
Est-ce que tu peux rapprocher ta bouche de ton téléphone ou est-ce que vous n'avez aucune intimité, le téléphone et toi?
Là-dessus.
Voilà, rapproche parce que. Imagine que c'est une bouche. Voilà. Rapproche-toi, Henri. Tu es donc dans ton lit avec tes t-shirts. Tu es là dans le noir. Il y a une
petite... On entend.
Là, on t'entend. Là, c'est merveilleux. Là, il y a une intimité. On a l'impression qu'on se réveille avec toi. Ça érotise beaucoup, ça. Ah, voilà. J'étais un tout petit peu loin, peut-être, avec Henri Chapier. Peut-être que. Cette idée d'intimité a été un petit peu trop forte. Henri Chapier, des successions de t-shirts sur son corps, dédicacés par des acteurs. Un homme dans son lit ce matin, et puis le téléphone qui ne veut pas. Puis quand ça ne veut pas, je vais vous dire, quand ça ne veut pas, faut pas forcer le destin. Allez. Oui. Ben oui, mais c'est ton iPhone, ne marche pas. Henri, je te rappelle tout à l'heure, je t'embrasse, bonne journée. Salut mon chéri, salut Henri. Ça, voilà, c'est parce qu'Henri Chapier avait raccroché, je n'aimais pas ça, donc je voulais savoir si tout allait bien. C'est les 10 dernières minutes de l'émission, Giorgio qui a la gentillesse de venir très tôt le matin, pour un chanteur, être invité le matin, c'est quoi, c'est un cauchemar ou pas?
Ouais, presque. Non, mais ça me fait plaisir d'être là, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas mis de réveil, quoi.
Alors, non, ah oui, c'est ça, ça t'a rappelé quoi, le lycée?
Ouais, exactement. Ouais.
T'as fait de la fac après, toi, ou pas?
Non.
Ouais, eh bien, justement, ça. Alors, il y a plein de gens qui sont venus, parce que c'est un événement Nova, donc plein de gens sont venus t'écouter. On va rapatrier tout le monde du Café Nova. En plus, Pat n'est pas là ce matin. Pat est à Angers pour quelques jours, donc le Café Nova n'est pas comme d'habitude. On va rapatrier tout le monde pour des raisons de chauffage, mais nous sommes tout de suite avec nos amis des jours. Nous sommes qui, d'habitude, sont là. Est-ce que c'est à cause du froid que vous êtes au téléphone, les jours?
Non, pas du tout. C'est pour être à Montpellier.
Alors, à Montpellier, que se passe-t-il à Montpellier, Thomas Baumgartner?
Vous posez la question.
Non, je rappelle que vous êtes là.
C'est gentil, ça met une présence comme
que
ça.
Que se passe-t-il?
C'est Antoine Guiral qu'on a au téléphone. Antoine Guiral, vous démarrez aujourd'hui une série, une obsession, comme on dit chez lesjours.fr. Et là, vous êtes sur le terrain auprès des militants socialistes à Montpellier.
C'est exactement ça. Voilà, on va suivre en fait jusqu'aux élections législatives de l'intérieur une fédération avec ces drôles d'oiseaux peut-être en voie de disparition qu'on appelle les socialistes. Voilà, menacés dans leur existence, divisés, raillés, déboussolés, mais n'empêche qu'ils sont là, vieux pour la plupart, militants à y croire toujours. Dans leur fédération, entre des portraits gigantesques de Jaurès, Blum, Mitterrand. Voilà, ça sent un peu la naphtaline, mais ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot.
Oui, d'ailleurs, ils le disent beaucoup dans l'article qui est donc...
Le goût du passé, l'intérêt pour le passé n'est pas un refus de l'avenir, Antoine Guiral.
Non, justement, c'est aussi pour ça que eux savent qu'ils ont un gros travail qui les attend de clarification idéologique, enfin un travail qui repousse depuis une trentaine d'années. On l'a vu là sous la présidence Hollande, en fait, ils n'arrivent pas à trancher certaines questions. Donc il y a eu une partie du PS qui est entrée en fronde, en dissidence, et la primaire sera peut-être l'occasion de clarifier tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un parti qui se demande aussi s'il va avoir le destin du PASOK en Grèce, hein, menacé par... qui a quasiment disparu avec l'émergence de Tsipras, ou alors du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol avec Podemos. Le PS, aujourd'hui, il est vraiment dans cette problématique-là. Et il est pris en tenaille entre Macron d'un côté, Mélenchon de l'autre... Voilà. Après, c'est un parti aussi qui se vit comme une sorte de phénix. Les militants, les élus, ils font gros dos. Ils disent oui, oui, ok. Ah, vous venez voir les masochistes, les derniers dingues. Mais, ouais. Mais on a connu pire que ça. On a connu 1993. On a connu une défaite très violente récemment aux élections européennes où les écolos étaient devant nous, etc. Donc, mais on est là. Il faut c'est tenir les murs, en fait.
Antoine Guiral, c'est comment un congrès du PS à Montpellier? C'est quand même un petit peu joyeux. Il y a des banquets, il y a des... on va toquer à la chambre d'une militante qu'on a repérée. C'est quelle génération ?
Alors, bah justement, c'est vraiment tout le travail là que j'entame. Là, je suis allé dans ce premier épisode au sein de la fédération, qui est un endroit très particulier parce que Montpellier, c'était la ville de Georges Frêche, une grande figure du PS, mais qui en a été exclu, personnage très haut en couleur. Et c'est une fédération qui a été placée en plus, qui était très puissante, mais qui a été placée sous tutelle pour des affaires, des scandales de pizza, tout ce qu'on peut imaginer.
Les scandales de pizza, je vois.
De cette fédé est aujourd'hui toujours sénateur, mais il est sous le coup d'un procès, son immunité a été levée. Et pourtant, il y a toujours ces militants. Et entre le portrait de Blum et Jaurès à Montpellier, il y a celui de Georges Frêche, avec écrit militant socialiste. Voilà.
Et sa fille n'est pas loin, Julie Frêche est dans les parages aussi.
Pardon ?
Et sa fille n'est pas loin, Julie Frêche est dans les parages.
Absolument, sa fille de 34 ans dirige une section. Alors elle est tout à fait dans la ligne du parti, très François Hollande. Voilà, et c'est quelqu'un qui s'installe.
Il y a des personnages, il y a mon loulou Nicolas, là, le gros loulou Nicolas là, qui est là. Alors Antoine, voilà. S'il vous plaît, allez un petit peu voir dans les restaurants, dans les hôtels, et je veux des histoires intimes demain ou cette semaine du congrès EPS.
D'accord.
Merci beaucoup. Merci Antoine Guiral des Jours.
Merci à vous. Au revoir.
Alors, on est là, on est en studio, on est complètement artisanal ce matin. Giorgio, il fait trop froid. Donc, faites entrer là les auditeurs qui sont venus écouter Giorgio. Venez vous installer. Entrez tous. Christophe, accélérez-moi le mouvement. Allez-y, rentrez tous. On va faire le live ici. Giorgio, qui est avec toi alors? Qui t'accompagne?
Alors, avec moi, c'est Angelo Follet qui a réalisé tout mon album.
Qui réalise beaucoup d'albums, Antonio, qui est un personnage clé de toute une scène musicale. Vous connaissez depuis quand?
Depuis un peu moins d'un an, en fait. On s'est rencontrés avec la musique. Mais depuis, on ne se lâche pas, quoi. Ça veut dire qu'on a fini l'album. Et hier encore, on était ensemble. Enfin, avant-hier, on était encore ensemble en studio pour enregistrer de la musique, quoi, faire de la musique.
Tu es un enfant de Max Dormois, toi, ce quartier du 18e. Est-ce qu'il y a une scène musicale? Il y a des mecs entre eux qui se faisaient écouter des sons, comment ça se passe?
Comme dans tous les quartiers de Paris aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs, mais il y a un groupe et un rappeur notamment, c'est Hugo et le TSR Crew qui est assez emblématique de ce quartier. C'est une génération un peu plus vieille et que j'ai beaucoup écouté.
Comment on se rencontrait? Comment tu rencontres les mecs que tu admires? Il y avait des endroits particuliers où les gens se croisent?
En fait, il y avait quand j'étais vraiment plus jeune.
T'es pas très vieux, t'as quoi, 24 ans?
Ouais, c'est ça, dans 20 jours.
J'aime bien les mecs de 24 ans qui disent quand j'étais plus jeune. C'est bien. Ouais.
Non, mais et en fait, il y avait, je faisais énormément d'open mic qui sont des micros ouverts. Et donc là-bas, on se rencontrait entre rappeurs, on rappait nos premiers textes, etc. Quoi.
Et c'était où ça?
Moi, j'en faisais énormément dans. Attendez.
Ah oui, il y a le micro qui tombe. Tenez. Ah non, Jules. Qu'est-ce qui se passe? On me fait signe qu'il y a la pub, les gens me font des signes très bizarres. C'est toujours autour de la pub. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Giorgio, tu dis que c'était où?
Bah, du coup, c'était dans le 19, 20e, dans des bars, des caves, des trucs comme ça.
Tu me disais, je suis venu le matin, j'espérais qu'il y aurait de la bonne pub. C'est ça que tu m'as dit? S'il te plaît, dis-moi oui.
Oui.
Oui, bah exactement. Écoute, bien sûr. Ben, voilà.
7h, 9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
C'est très bien, mais on le mettra demain parce qu'il est 58. On est avec c'est le premier live de l'année. Il y a tous les fans de Giorgio qui sont là. Je vous entends. C'est le premier, voilà, les auditeurs qui sont venus ce matin, qui ont bravé le froid pour venir écouter Giorgio chanter live. On s'est tous repliés dans le studio. Il y a une ambiance feu de bois. Rudy, représente-nous bien ce grand artiste.
Écoute, une fois passé les sincères mais polissés vœux de fin d'année, les amis, il ne faut pas se le cacher, 2017 ne va certainement pas être si simple que cela. Alors il va falloir bien s'entourer, choisir nos soldats de la culture, les porte-paroles capables de parler de manière sensée, lucide, sincère et apaisée à toutes les générations. Et ce n'est donc pas un hasard si tu es là avec nous ce matin, Giorgio, pour ouvrir avec tes mots, avec tes textes cette année à venir. Du haut de tes 24 ans et tes deux albums, Bleu Noir et Era, tu as déjà réussi à réconcilier les nostalgiques du hip-hop des années 90 avec un rap plus actuel, à le sortir de ses carcans en alliant chant et rap, à parler de ta mélancolie, de noirceur avec élégance et pudeur, mais surtout à savoir s'en échapper, à évoluer pour emmener les tiens, ceux qui t'écoutent, vers une touche d'espoir, un combat, une hymne à la vie. Comme tu le dis dans l'un de tes textes, l'espoir meurt en dernier, alors ça va, on a encore un peu le temps, et puis c'est encore l'heure et le temps des cadeaux. Je sais que t'aimes beaucoup la littérature et t'as un rapport « Je t'aime moi non plus » avec Paris. Je t'offre ce livre qui parlera forcément à Edouard, Patrick Modiano, Fleur de Ruine.
Merci beaucoup.
Merci d'être là avec nous pour ouvrir cette année.
Bah, merci à vous et merci pour tes mots.
Le flot de Rudy, bravo, bravo Rudy.
À vous de jouer.
Alors, il y a plein de gens différents. Ça me frappe, c'est la différence de public de Rudy. Il y a toutes les générations, tous les sexes sont là.
Salut.
Donc vous êtes, comment ça va votre couple?
Ben ça va, on fait ce qu'on peut. Hein.
Donc vous inventez des choses, par exemple aller à un concert de Rudy le matin, ça aide ou pas?
C'est pas mal.
C'est un challenge supplémentaire.
Ouais, quels sont vos prénoms?
Aussi, c'est bien. Joyce.
Alexis.
On ira chez vous après, tout de suite. Faites la balance en direct, voir si ça marche.
Giorgio ira le 24 mars prochain à l'Olympia.
Antonio, yes. Vas-y, c'est bon la guitare? Ouais, je crois que c'est bon.
Ouais, c'est cool.
Ok, c'est bon, c'est à vous maintenant, moi je sors du...
Allez, go.
Merci Giorgio.
Merci à vous. Merci Giorgio, Antonio. À demain, c'est fini. Les 30 Glorieuses, pardon pour le retard.
Edouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.